Excellent débord d'onde déjà. On va bien aller en onde.
Un autre. Prise 2.
Ben non, mais t'es. Nate a amené un bon point. Je suis débordé. Êtes-vous débordé? 418-971-1021. Si oui, pourquoi? C'est votre boss qui vous arrive avec des projets que vous faites. Hé, j'ai pas le choix de dire oui. Mais call-in que j'ai pas le temps. Sur votre personnalité, parce que moi et Antonine, on en parlait, notre personnalité où on est des gens qui ah, t'as ce projet-là, donc ben cool, j'embarque.
On dit oui, nous.
Oui.
On est des yes-men. Hey,
on est trois, là.
Ah ouais, toi aussi.
C'est ça. Fait qu'êtes-vous débordé à cause de ça? Êtes-vous débordé parce que votre blonde ou votre chum dit « Ouais, il y a une liste à la maison, puis là, tu t'y mets. » Ça, je sais que tu fais ça avec ton chum, Anto, en passant.
Ah, les listes, oui, ça, ben, absolument. C'est nécessaire pour la survie du couple.
Oui.
Est-ce que vous connaissez aussi des gens qui se vantent d'être débordés? C'est pas du tout ton cas, Nathan, oui. Je te rassure. Mais du monde qui se valorise, sont tout le temps plus dans le jus que les autres, là.
Ah, épouvantable. 418-971-1021, dropper des noms, le dira pas en nombre, mais on veut en savoir quand même. Ah, épouvantable. J'en ai tellement connu dans ma vie. De ce monde-là, que là, tu regardes ce qu'ils font à job, tu regardes ce que toi, tu fais. Toi, tu te plains jamais que tu es débordé. Tu embarques, tu as tes objectifs, tu as tes missions, tu y vas, tu te plains pas, tu as le sourire. Bon, tu dis comment ça va bien, puis c'est vrai que ça va bien. Puis là, tu en regardes d'autres à côté que tu te dis. Tabarouette, quand est-ce qu'ils vont réussir à faire une tâche?
Ils sont tout le temps tête dans l'eau, là, puis
oui.
Tu dis, est-ce qu'ils sont bien organisés, ce monde-là?
Ben, c'est du monde désorganisé,
c'est sûr.
Simplement. Et c'est aussi...
C'est beaucoup dans le paraître.
Ben oui, parce que ça paraît bien.
Le point que vous amenez est bon de... J'en ai des gens comme ça dans mon entourage. Je pense à quelqu'un en particulier, évidemment, je le nommerai pas, mais c'est ça. Il n'y a jamais rien qui aboutit. Jamais dans... En... 15 ans d'amitié, je me souviens avoir une discussion pour faire comme « Hey, ça c'est fait, là on passe à d'autres choses. »
Ben oui!
Jamais.
Exactement. Et puis moi j'ai connu ça, puis là je m'excuse. Je vais nommer une profession. Et je le sais que c'est pas 100% des gens qui font cette profession-là qui sont comme ça. Mais je l'ai vécu avec du monde du domaine de l'enseignement. Où ils s'assinent, c'est le qui est le plus débordé. Non, la quatrième année, c'est bien plus tough parce qu'il y a des examens du ministère. Ouais, mais ça paraît que tu n'enseignes pas à sixième, faut que j'y prépare au secondaire.
C'est un concours, là, si je comprends
ouais,
bien.
Ouais, mais moi, je suis en secondaire 2, crime. Ils arrivent pourris, les maths, puis j'enseigne les maths. Si vous saviez récupérer ça, je ne sais pas. Ils s'assinent à savoir c'est qui est le plus débordé selon leur niveau. Hey, les enseignants, en passant, on le sait que vous faites un job extraordinaire.
Je les
admire.
Vous êtes
avec nos enfants. Hey. On vous admire. Hey. On le sait que vous êtes obligé de faire du travail à la maison. Pas besoin de vous compétitionner entre vous autres. Vous êtes toutes débordées. C'est simple.
C'est toute la gang.
Puis vous autres, on vous croit.
Ben oui.
Aussi simple que ça.
C'est toutes des tâches qui sont différentes, c'est ça. T'sais, autant un professeur de maternelle, là, c'est débordé un professeur de maternelle. Là. Une classe de 20-25 élèves de 4-5 ans, là.
Ah!
Honnêtement, je suis prêt à me lancer le défi. D'essayer de faire juste une période.
Ah, c'est bon, ça, s'il y a une école qui veut éviter Nathan.
Juste une période, pour le fun. De l'essayer, voir à quel point je sors de là, d'après moi, puis ça me prend un papier du médecin. Je tombe
moi,
en arrêt de travail.
Je vais m'asseoir avec mon popcorn, puis je vais te regarder.
C'est ça. Écoute, ça me fait plaisir. Hey, c'est admirable, là.
Non, c'est admirable. Moi, je coach au hockey, puis j'adore coach au hockey, mais tu sais, c'est 2 à 3 fois par semaine pour 1 heure et demie de gestion d'ado. Puis ça... C'est correct. Ça fait mon bonheur.
C'est assez.
J'en prendrais pas plus. c'est pour ça que j'aime ça. Mylène, c'est tellement bon. Le pire sont ceux qui se plaignent sans arrêt d'être dans le jus, mais dès que tu les croises au bureau, ils jasent, ils mangent, ils racontent leur fin de semaine.
Ceci explique cela.
Oui, c'est ça. Fait que là, t'es dans le jus, mais dans ton 8 heures de travail dans le jour, t'as passé 4 heures à raconter que ta petite, elle commence à marcher.
Il y a un problème de productivité.
Oui.
Chez certaines personnes. Regardez, qu'est-ce que vous mettez comme temps dans chaque chose?
Clairement.
L'optimisation. Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
Ben oui, optimisation.
T'sais, je suis de ça un peu. Là. Je suis de ces personnes-là un peu. Je vais me laisser distraire vraiment facilement. Je pense que les espaces de travail à air ouvert aussi, certaines personnes, ça va jouer énormément.
Oui.
Là, mais... Je finis par être capable d'être dans ma bulle. Ça, je suis capable de le faire maintenant. Mais si quelqu'un vient me parler, on revient au yes man, yes woman de tantôt. Là, si quelqu'un vient me voir pour me dire, t'as-tu deux petites minutes pour
tu vas pas dire non, je suis dans le jus.
J'ai de la misère à faire ça. J'ai de la misère à faire comme, hey, non, pas tout de suite. Fait que là, tu défocuses complètement. Là, tu parles avec la personne. Puis là, le temps de te remettre dans la tâche que tu faisais, whoop. Là, s'il y a une autre conversation de l'autre bord qui passe, ça se peut très bien que mon cerveau parte en vrille. Puis là...
Ça, je remercie mon patron Fred au RTC qui m'a cassé là-dessus. Mais tu sais, là, j'ai été un employé là, qui le défiait. Là. Non, 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 moi, je suis de même, puis ma porte est ouverte, puis si le monde veut venir me voir, c'est ma personnalité, ta. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, ouais, mais c'est parce que Jeff, tu joues au psychologue 6 heures par jour, je t'en paye 8 pour que tu sois productif.
Ouais. C'est pas dans tes objectifs.
Exactement.
D'écouter tout le monde, leur trouver des solutions, de les entertainer.
Mais c'est ce que moi, j'adore faire ça.
Ben, c'est sûr.
Moi, j'adore ça. Puis même des fois, je tape ses nerfs à ma blonde, puis avec raison, parce qu'elle m'arrive avec un problème, moi, j'arrive tout de suite avec une solution.
C'est ça.
Mais là, j'ai pas besoin de la solution, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Ouais, mais je t'écoute, je te propose une solution, mais c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut pas ma solution.
C'est dans ta personnalité, puis c'est
mais
correct.
Mais c'est le même.
Mais c'est vrai que, tu sais, on n'a pas des jobs de télétravail, ben.
Non.
Mais pour focusser puis être productif, tu sais, à chaque fois que quelqu'un te sort de ton moment focus, ça prend plusieurs minutes avant de se reconcentrer.
Ben oui.
Et d'ailleurs, les notifications, tu sais, on en reçoit Messenger, Instagram, toutes les plateformes de médias sociaux, les courriels, les Teams, les appels. Et à chaque fois qu'on regarde nos notifications, on recommence à zéro à rentrer dans notre concentration.
J'avais
c'est
déjà lu une étude là-dessus, ça prend 7 minutes à se remettre dans ton travail adéquatement, 100% concentré, si ça a fait « ping », puis là, ça dit « ah, c'est
on se fait déranger beaucoup plus qu'une fois aux 7 minutes, alors
ben
jamais
oui.
on atteint un niveau de concentration.
Jamais.
Incroyable, hein?
C'est fou.
Non, là, comprenez maintenant.
Ouais.
Hey, comprenez.
Je veux vous parler d'un autre sujet aussi, puis les auditeurs continuent à réagir comme vous le faites, 418-971-1021. Puis je veux juste revenir. Félicitations, premièrement, à la communauté à Montréal-Nord hier qui a fait une manifestation sans grabuge.
Effectivement.
Très, 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 très fiers de la communauté. Ils ont prôné par l'exemple. Ils sont victimes de gestes de violence de la part des policiers, puis eux n'ont pas utilisé la violence. Félicitations. Mais vous en pensez quoi de certains médias qui n'osent pas parler de la situation parce que j'ai l'impression que... Pas j'ai l'impression, j'ai la certitude qu'eux autres... ce que les policiers ont fait, ça les dérange pas trop, mais que si jamais il y avait eu un geste de violence d'un manifestant hier, ils auraient fait leur émission de radio complet là-dessus pour dire « Voyez! Les policiers sont de même, c'est à cause d'eux autres! » Je trouve ça épouvantable.
Peut-être. C'est un bon point, quand même, de à quel point on va reprendre un détail pour le tourner à notre avantage ou au désavantage du groupe de manifestants. Je pense que j'ai l'impression que ces gens-là se sont parlé hier, là, malgré le fait qu'il y avait un grand rassemblement, puis tout le monde s'est attendu sur le fait que, tu sais, il faut absolument comprendre par l'exemple.
Clair.
On peut pas riposter.
Non, ils ne pouvaient pas l'échapper.
La meilleure façon de riposter, c'était ce qu'ils ont fait hier, effectivement. Puis je pense que, oui, il y a possiblement des langues sales, on va dire les vrais mots, là, qui, s'il y avait eu débordement, il y a probablement des langues sales qui en auraient profité pour mettre ça en gros titre ce matin un peu partout aussi. Mais garde, heureusement, dans tous les cas, c'est pas arrivé. Fait que tant mieux. C'est
bonne
une bonne
nouvelle,
chose.
Faut le souligner.
Ben oui.
La vraie honnêteté intellectuelle, c'est d'être capable de dénoncer la violence, peu importe si c'est le groupe qui, d'habitude, c'est celui que tu aurais tendance à supporter.
Exactement.
Ou si c'est un autre groupe. Si tu justifies des gestes de violence parce que tu as une opinion favorable d'un groupe et que tu dénonces des gestes de violence parce que tu as une opinion défavorable d'un autre groupe, ben t'es juste malhonnête intellectuellement.
Je suis clairement d'accord avec toi. Tu sais, moi, honnêtement, je l'ai dit hier, les gestes de violence des policiers, et là, ce qu'on sait à l'heure actuelle, on va sûrement en savoir plus, n'ont pas la place dans notre société. Puis c'est pour ça que je salue grandement la communauté de Montréal-Nord qui a fait une manifestation pacifique hier. Mais si la communauté avait décidé de scraper le poste de police, moi, j'aurais dit que ça n'a pas sa place.
Tu vois, on vient de donner un bon exemple juste en ondes là. Tu sais, l'explication d'Antonine, justement, était très réfléchie, très bien amenée, alors que moi, j'ai dit langue sale. Tu vois, c'est pas, j'ai fait exactement la même chose que ce qu'on reproche des fois à ces médias-là.
En effet.
Donc, tu vois, j'ai même pas su prêcher par l'exemple moi-même. Merci, Antonine, pour la
ben
belle...
Non, ben non. Non, mais ça fait des meilleurs clips, dire des langues sales, tu vois.
Ouais,
c'est meilleur.
C'est
ouais. Non, on va souhaiter que ça continue à bien se passer. Là, il y a un enquêteur, une personne indépendante qui a été nommée dans le dossier pour suivre l'enquête. On va souhaiter que ça donne des bonnes conclusions, que ça donne un rapport qui ne sera pas tabletté, puis qu'on va pouvoir réussir à se réconcilier tout le monde, à rebâtir les ponts. Ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile, parce que ça fait des années que les communautés crient justement au racisme systémique dans les interventions policières. Il y a des statistiques, là, hier on a parlé avec Vicky Powell, c'est disponible sur blvd.fm, mais des statistiques quand même assez alarmantes là-dessus concernant le nombre d'interventions par capita. Alors, on va souhaiter que cet événement-là, qui n'a pas de sens, puis qu'on n'aurait jamais souhaité connaître au Québec, ait des retombées positives. Des fois, on part d'une tragédie ou d'une perturbation majeure pour tomber sur nos pieds puis avancer. On va souhaiter ça.
T'as raison, mais en même temps, puis je veux pas être cynique, mais il y en a déjà eu un événement comme ça dans la communauté de Montréal-Nord. C'est l'assassinat, le meurtre de Freddy Villanueva.
C'est vrai. Hey, ça remonte déjà à 2008.
Oui, puis je trouve que ça augmente la pression pour que des actions rapides soient prises parce qu'on en connaît beaucoup déjà des constats. Donc, tu dis, j'espère que le rapport ne sera pas tabletté. Il ne peut pas être tabletté. Mm-hmm. On en a déjà tabletté des rapports puis des solutions pour Montréal-Nord.
T'as raison. T'as entièrement raison. Puis merci à un auditeur, une auditrice qui nous écrit. Selon moi, à partir du moment où tu fais de l'actualité sélective, c'est malhonnête. Mais en effet, puis c'est pour ça qu'ici à Boulevard, on vous parle constamment des deux côtés de la médaille, puis on vous exprime constamment, justement, nos opinions qui peuvent être divergentes. On a eu un bon exemple l'autre jour sur les lanceurs d'alerte.
Oui, quand même.
On s'entendait pas.
Puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous nous écrivez. On lit tous vos commentaires.
Oui.
On essaie d'en passer le plus possible en ondes, mais vous participez à ces débats-là. Je pense qu'on le fait
clairement.
De bonne façon.
Clairement. Oui. Nathan Meilleur, trois petites manchettes avant qu'on passe au caucus avec Antonine Iaccarini, parce qu'il faut absolument parler de... T'sais, on disait toujours l'expression la belle-mère, mais là, c'est les beaux-pères.
Ah oui.
C'est Christian Dubé, c'est François Legault qui, là, ils veulent tellement parler encore.
Oui, ils ont beaucoup à dire.
Ah oui, puis ils ont toutes les solutions. Ça fait 8 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais eu de solution, mais ils ont toutes. Puis écoutez-nous, ça va bien aller au Québec. OK, on a 3 manchettes avant qu'on divague un peu sur eux.
Ben oui, certain. Écoute, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est le nombre de morts sur la route qui a grimpé de 88% quand même en 2025. On peut lire ça là, du côté du Journal de Québec. C'est la capitale nationale qui paraît pas bien du tout parmi les régions du Québec avec cette hausse-là importante des décès sur la route en 2025 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. C'est le plus récent bilan routier, évidemment, de la SAQ qui est sorti, ça a été dévoilé ce matin. Les résultats de compilation annuelle qui démontrent que la Ville de Québec et ses environs a de très loin une augmentation qui est marquée. Presque à elle seule, la région tire le bilan québécois des blessures mortelles vers le haut. On parle d'une hausse de 0,7% qui est causée juste par nous, là, ici. Donc, selon le bilan routier 2025, la capitale nationale est l'une des seules où tous les indicateurs sont à la hausse. Des blessures graves qui ont augmenté aussi de 15,9%. J'entendais une entrevue un peu plus tôt, justement, avec nos collègues là, sur l'antenne de Boulevard. Les jeunes sont beaucoup représentés, malheureusement, dans ces accidents-là, alors que pourtant le pourcentage de jeunes ayant un permis de conduire est beaucoup moindre. On a posé la question aussi par rapport à nos infrastructures, l'état des routes. Est-ce que ça a un enjeu par rapport à ça? Oui, non, non, oui. Ça reste quand même que c'est le comportement humain qui va avoir une incidence majeure. On parle encore évidemment d'intoxication, donc d'alcool au volant, de drogue au volant. On sait qu'avec la légalisation du cannabis, on est encore en période d'adaptation, mine de rien. Avec tout ça, maintenant, les policiers ont des outils pour voir si quelqu'un est intoxiqué par le cannabis. Ça semble pas être tout à fait parfait. Puis ce qui m'a vraiment frappé là-dedans, là, dans ces chiffres-là, là, c'est la fatigue au volant.
Mm-hmm.
À quel point la fatigue revient encore énormément. Puis on a été capable de prouver de façon scientifique dans les dernières années que quelqu'un qui est très fatigué au volant, ça représente la même chose que quelqu'un qui a les facultés affaiblies.
C'est dangereux.
Fait que si vous prenez le volant fatigué, c'est peut-être l'équivalent d'avoir bu 5, 6, 7 bières avant de partir puis de prendre le volant. Fait qu'évidemment, ça, ça retient beaucoup l'attention.
Hey, dis-moi donc, puis je fais une parenthèse parce qu'on a beaucoup de textos là-dessus depuis ce matin. J'en ai un. Je passe 60-70 heures par semaine dans le chemin. Il y a beaucoup plus d'immigrés dans nos chemins. Mais t'as pas nommé de cause reliée à l'immigration là-dedans? T'as nommé de la fatigue, non. L'alcool, la vitesse excessive?
Bon point.
Tu sais, quand on a ces fameux préjugés-là, là,
les ouais,
fameux
là...
préjugés. Puis là, tu sais, ceci dit... Moi aussi, j'ai envie des événements avec
ben oui.
des personnes qui ont un permis temporaire.
Il y a des aspects
temporaire.
Culturels aussi dans
Puis
la conduite.
Il y a un aspect culturel, ben oui. tout ben oui. le quitte. Mais dans les accidents, moi, je tiens à le spécifier, il n'y a pas de hausse parce qu'il y a plus d'immigrants sur le chemin.
Parce qu'on parle de blessures graves, d'accidents.
C'est
ici.
Des comportements dangereux qui sont faits. Puis là, pardonnez-moi, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, puis ça ne me dérange pas, 418-971-1021, qui sont faits par des Québécois de souche. C'est le petit gars de 18 ans qui décide de chauffer trop vite ou chaud. C'est le Jeff Fortin, parce que ça, ma blonde m'a parlé là-dessus, puis elle a raison, qui décide de conduire fatigué. Mm-hmm. Puis elle dit, hey, dans ce temps-là, tu me donnes le volant, man, je te vois cogner des clous. Mais moi, je veux être le super-héros qui amène la famille à bon port pour être tué la famille. Tu sais, fait que
ouais.
ça me prend un petit talk de ma blonde qui était juste parfait. Mais c'est ça. C'est des Québécois de souche qui font ces accidents-là par des mauvais comportements.
Ah oui.
Donc, il n'y a pas de personnes immigrantes.
Mais alors, je ne sais pas s'il y en
plus.
A pas, Jeff, là, mais...
Non, mais ce que je veux dire, c'est...
C'est pas ça, le facteur.
Exactement.
Il n'y a pas
c'est
une
pas
statistique
ça, le
probante, c'est ça, par rapport
en
à
plein
ça. Le port de la ceinture aussi, je ne peux pas croire qu'on parle encore de ça en 2026, mais ça, c'est un sujet qui a été justement mentionné en ondes hier, si je me souviens bien, avec nos collègues Max Larouche et Kat Bachan. Le fait que ça me faisait capoter, Kat racontait en ondes qu'elle connaît encore des gens qui attachent leur ceinture avant de s'asseoir sur le banc.
Mm-hmm.
Parce que là, maintenant, les autos détectent ça.
C'est
je sais pas si votre véhicule est comme ça, mais moi, si ma ceinture n'est pas attachée, je peux pas partir.
Ah,
il
ne
veut pas
ça.
Embrayer sur le drive, là, le char ou sur le reculon, ça ne marche pas. Ça... Ou sinon, le véhicule part, mais à un moment donné, il te freine ça d'en face d'un coup. Okay? Puis tu veux pas que ça arrive quand tu es en train de sortir de ton entrée au milieu de la route, mm-hmm. quand il y a des chars qui arrivent de chaque côté. Mais il y a encore des gens aujourd'hui qui ne s'attachent pas.
C'est vrai.
En
ouais.
auto. Alors que...
C'est dur à comprendre.
Ben oui, c'est dur à comprendre.
Surtout que l'outil maintenant est ajustable d'à peu près partout.
Ben oui,
je sais pas si vous avez remarqué.
Quand
mais...
t'aises la ceinture, va te déranger.
C'est possible de l'ajuster, la hauteur, l'endroit sur le bord du banc. Bref, ça, ça fait beaucoup parler aujourd'hui. Clairement,
yes.
on va y revenir. Mobilité Infra Québec et CDPQ Infra qui démentent les affirmations du chef de Respect Citoyen, Stéphane Lachance, qui jugeait plausible que le tramway soit amputé de son tronçon en Basse-Ville pour respecter le budget de 7,6 milliards de dollars, pardon, les deux organisations qui assurent que le projet sera réalisé dans son intégrité, incluant le tunnel entre Saint-Roch et la Haute-Ville. Le tracé prévu de plus de 19 km reliera toujours Charlebourg à Sainte-Foy. Québec rappelle également que l'excavation du tunnel doit débuter dès l'été 2026, soit un an plus tôt que prévu. Fait que... Je l'ai bien dit. Là,
oh,
parce
on
que
va
ça...
en parler tantôt avec Elissa Despins, là, le oui. bonhomme 7 heures du tramway, Stéphane Lachance.
Puis,
on dirait que j'ai trop de choses à dire aujourd'hui. Je suis comme plus capable de plein de monde.
C'est le temps des vacances
ça
qui s'en vient.
Hein?
Non, non,
ça
mais je suis plus
hein?
capable des préjugés, ces immigrants puis les communautés ethniques. Je suis plus capable des vieux politiciens qui essayent de nous expliquer qu'il y avait la solution quand ils n'ont pas été capables de la mettre en place.
On devrait te faire un jingle, Jeff. Je suis plus capable.
Ah ouais,
plus capable de respect citoyen qui me parle du tramway.
C'est du radotage.
Je suis plus capable.
C'est du radotage.
Ah
ça,
ouais, non,
plus
non,
capable
c'est
du radotage. Puis
ouais.
tu sais, je connais des gens qui travaillent à l'interne là, pour le tramway. Encore là, sans nommer personne, vous comprendrez bien. Et des personnes que je connais qui ont été présentes lors de la rencontre, justement, avec Respect Citoyen, parce qu'il y a eu une rencontre entre CDPQ Infra puis le bureau de projet du tramway et Respect Citoyen, parce qu'on avait des questions à poser. Ça s'est super bien passé, cette rencontre-là.
Oh oui.
Ça a vraiment bien été. En tout respect, justement, tout a bien été. On sort de là, on a l'impression que tout va bien aller. Même M. Lachance était sorti en disant « On m'a mieux expliqué, je comprends le tramway, je vais lâcher un peu le morceau. » Et là, on ressort avec ça aujourd'hui. On vient jeter un pavé dans la mare,
oh
comme
non.
on dit, pour une information qui ne semble pas être vraie, du moins pour l'instant. Puis des travaux d'infrastructure, quand est-ce qu'on a entendu ça, que c'est devancé?
Ouais, oui, c'est
les travaux du tunnel.
On va en parler tantôt avec Elissa, parce que je veux pas trop voler de temps du
Parfait.
caucus, mais
je termine avec une série d'articles maintenant du côté du Soleil que j'ai trouvé vraiment intéressante. Je sais pas si vous avez lu ça sur les cicatrices urbaines qui défigure le paysage de Québec. Premier article est sorti hier, je pense, mais on a décidé du côté du soleil de faire un magnifique travail. Il y a même une carte interactive, là. On s'est promené un peu partout dans la ville pour aller regarder différents bâtiments qui sont un peu laissés à l'abandon. Et là, vous voyez là-dedans, dans la mise à jour d'aujourd'hui, il y a le Pub Limoilou, entre autres sur la 3e avenue, qui est vraiment laissé à l'abandon depuis quelques années. Ça, il faut comprendre que le Pub Limoilou était un des derniers pubs de blues dans la ville de Québec, dans la grande ville de Québec, où il y avait des spectacles de blues à peu près à tous les soirs. Ça avait été acheté par un groupe...
Bon, je vais vous avouer, j'aime le blues. Bon. Fait qu'au moins, je suis capable du blues.
T'es capable du blues.
Une affaire positive.
Ça, c'est pas pire. Mais c'est un groupe de restaurateurs qui avait acheté ça pour en faire un restaurant sur la 3e avenue. Puis, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a un comptable qui avait volé beaucoup d'argent à ce groupe de restaurateurs-là. Ça a mis le projet sur pause. Ça, ça fait partie des infrastructures. On parle de l'ancien site de Gaétan Moto aussi,
oui,
qui est sur le boulevard Amel, Henri Bourassa, pardon, et l'avenue de la Canardière. Ça aussi laissé à l'abandon. Bref, allez faire un petit tour du côté du soleil pour lire cet article-là. On donne plusieurs exemples comme ceux-là, puis c'est fort intéressant. Évidemment, le Colisée Pepsi en fait partie aussi, à savoir quand est-ce qu'on va... finalement faire quelque chose avec cette infrastructure-là.
Le caucus!
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Meilleure façon d'écouter Le caucus, c'est notre application Boulevard 102.1. Disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Hey Anto! Plus capable qu'on parle du vieux Colisée. Ça fait 11 ans. On peut-tu juste, excusez-moi le juron, on peut-tu juste le crisser à terre pour faire d'autres choses sur ce terrain-là? Ça fait 11 ans.
Tu me fais rire aujourd'hui.
Mais non, mais comment ça, ça nous prend 11 ans pour démolir un édifice?
Ça prend beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses au Québec. Oh,
c'est épouvantable. Oui, puis tantôt, vers la fin de l'émission, je vais vous parler du Wallaby.
Oh, ça, là, c'est ma nouvelle préférée d'aujourd'hui.
Ah, oui,
mais et tu
wallaby.
Vas dire, comment ça se fait que ça prend autant de temps à pogner un kangourou, c'est ça?
Ben, écoute, quand je t'en... Ah non, c'est parce que l'extrait est long et long et long. Mais pour résumer, là, je vais vous le faire écouter tantôt. Shani Angie Cadorette, qui est une personne qui, justement, gère un refuge pour les animaux, est débarquée là, vendredi. Puis là, elle a appelé la faune. Puis elle a dit, hey, le wallaby est là, je suis à côté. Puis là, la faune, elle a dit, on fait pas de temps supplémentaire.
Ah, mon Dieu.
Fait qu'elle a redébarqué samedi. Puis là, elle a dit, je suis là. Puis en plus d'être là, je suis avec ma gang spécialisée qui capture des kangourous en Australie. Fait que, gars, on te le pogne. Ils ont dit, vous pouvez pas faire ça, vous avez pas de permis.
Vous avez pas le permis, madame.
Fait que là, elle a dit,
le permis C82-2.
Qui a le permis? Ils savent pas encore au Québec qui a le permis pour capturer un wallaby. Fait que c'est pour ça que le wallaby est encore là. Parce qu'on cherche qui a le permis.
Mais on le sait, c'est qui. Ça nous prend Arthur l'aventurier.
Ben, c'est ça.
Il est où, Arthur l'aventurier?
Zoo Miller est prêt à accueillir le wallaby. Ils en ont, des kangourous et des wallabies. Ils sont spécialisés. Ils ont le permis. La gang...
Mais non, monsieur, c'est pas comme ça que
la
ça fonctionne,
gang,
monsieur.
La gang qui capture en Australie sont sur le bord de l'autoroute à Boucherville avec leur matériel. Eux autres, là, ils attendent juste le go, là.
Ça prend l'autorisation.
Puis, Shani Angie Cadorette, c'est une spécialiste. Elle a son refuge. Ils sont toutes là prêts à intervenir. Puis, la réponse du gouvernement du Québec, c'est « Vous avez pas le permis ». Puis le wallaby est encore sur le bord de l'autoroute. On est rendu mordi.
Ouais, ça serait plate qu'il arrive quelque chose entre-temps. Honnêtement, le gouvernement serait dans la chenoute parce
que... Ben là, Shani Angie est retournée sur les lieux aujourd'hui.
Oui.
Trouve plus le wallaby.
Ben c'est ça. Puis le problème, c'est que ça a l'air cute de même, un wallaby, là. Mais si ça prend peur, un wallaby,
ben oui,
ça peut partir assez rapidement, ben se blesser, ça, aller ben sur l'autoroute,
oui,
se faire frapper,
là, qu'est-ce qu'on va... Ben oui, ou qu'est-ce qu'on va avoir comme image? Un wallaby qui défonce une porte patio, comme on a vu un orignal l'autre
c'est
jour.
C'est mon rêve qu'un wallaby défonce ma porte patio.
Ben, c'est ça.
Excusez.
Non, mais imagine.
Je suis comme vraiment jalouse de ne pas être dans la région où il y a le wallaby. Là. J'aimerais vraiment ça, voir le wallaby.
Ouais, mais le danger, en fait, avec ça aussi, c'est que là, je fais un peu de surf avec ce que tu viens de dire, là. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont prendre la route en fin de semaine pour ça ou d'ici la fin de la semaine.
Tu vas joindre deux nouvelles, celle des accidents de la route et celle du wallaby.
Mais imagine, parce que tu sais, il y en a des wareux.
Ben oui.
S'il y a plus de gens qui décident de se déplacer pour se dire, hey, viens, on va aller le voir, nous autres, le wallaby. Puis
on va essayer de le pogner.
Ben, ça, faut pas faire ça.
Non, ne faites pas ça.
S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais je pense quand même qu'il faut le dire, là. C'est un peu comme attacher votre ceinture de sécurité, là, même si c'est logique, il y a quand même des gens qui vont peut-être s'essayer, là.
Hey, le Québec. Le Québec. On n'est pas capable de
Mais c'est de, c'est de la faute du Wallaby, là. C'est quoi l'idée de se sauver en dehors des heures ouvrables du ministère de la Faune?
C'est vrai, ça. Maudit Wallaby.
Il aurait pu attendre à lundi.
Ben oui, puis c'est quoi cette idée de venir au Canada aussi?
Ouais, ça, je pense que c'était pas son
c'est
choix.
C'est quoi son idée de se faire braconner tant qu'à ça?
Ouais, exact.
Maudit Wallaby. La faute au Wallaby. Ben, selon toi que le gouvernement a dû. Veux-tu me dire qu'est-ce qu'il fait là, le Wallaby, qui se débrouille? Ouais, hey, on peut pas faire de temps supplémentaire. Vous n'avez pas le permis.
Oh mon Dieu.
OK, autre chose, je suis plus capable d'enquêter dans cette thématique-là. Hey, plus capable, moi, des vieux politiciens qui s'en vont, mais là, qui essayent de nous expliquer comment eux autres sont bons, sont fins, puis comment il faut changer le Québec quand ça fait 8 ans qu'ils sont au pouvoir puis ils n'ont pas été capables. Je parle de François Legault avec la filière batterie. Puis là, je parle de Christian Dubé qui nous a pondu un document de 80 pages en disant « Voici ce qu'il faut faire au ministère de la Santé. » Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu étais là pendant 5 ans.
Ouais. Moi, je suis d'accord que d'avoir toutes les solutions quand tu es à la fin de ton mandat puis que tu t'en vas puis que tu as été là 8 ans, je suis tout d'accord avec ça. Par contre, j'ai pas trouvé ça inintéressant, les propositions, parce que Christian Dubé, comme ministre de la Santé, a quand même fait beaucoup de choses.
Je suis d'accord.
Ça a terminé en queue de poisson. Il s'est attaqué à plusieurs morceaux du système de santé, un après l'autre, et la cerise sur le sundae, c'était les médecins et la rémunération des médecins notamment. Et là, ça ne s'est pas bien passé du tout. Et c'est ce qui a coûté finalement à François Legault, son ministre de la Santé, parce que Christian Dubé était fâché pendant les négociations avec les médecins que le gouvernement commence à reculer. Hein. Vous vous rappelez, c'était un affrontement, j'ai envie de dire, quasiment sanguinaire. Là. Les médecins ont toujours un levier de négociation très, très fort. Au début, l'opinion publique n'est pas avec les médecins parce qu'on trouve qu'ils sont gâtés et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais quand les gens ont vu les médecins qui commençaient à s'en aller en Ontario, l'opinion publique a complètement viré de bord et le gouvernement a voulu commencer à reculer et Christian Dubé ne voulait pas.
Trop fort casse pas. Ça, je pense que Christian Dubé l'a appris. Voici justement comment il a expliqué sa démission sur les ondes de Mario Dumont à LCN aujourd'hui.
Politique de retourner principalement vers le GAP, de créer un groupe qui va essayer de voir comment dans les prochains mois on va changer la rémunération. Et c'est pour ça que.
Et donc, on a cédé sur des essentiels. Ben moi, en termes de résultats pour le patient?
Selon moi, j'ai été très clair, puis j'ai pas démissionné pour rien. Si cette entente-là avait fait mon affaire, je serais encore là. Mais je trouvais qu'on s'était tellement éloigné de ça. Je l'ai dit, les fédérations, je dis bien, les fédérations ont bien joué leur carte dans le contexte du cycle politique. Ben, à un moment donné, moi, j'étais plus à l'aise et j'étais plus crédible pour continuer à travailler avec les médecins.
Toi, il touche un excellent point. Il était plus crédible, en effet, parce qu'il avait passé sa loi spéciale sous Bâillon. Puis ce qu'il expliquait au préalable, c'est qu'il disait, ben, tu sais, j'avais des commandes du Conseil de Trésor. Faut pas dépasser telle enveloppe budgétaire. Faut reprendre des droits de gestion. Faut donner plus d'accessibilité. Et là, il dit, le résultat de la négociation n'amenait pas, justement, ces objectifs-là de base.
Quand Christian Dubé dit qu'il avait perdu sa crédibilité, je pense pas du tout qu'il pense que c'est de sa faute avec son projet de loi. Moi, je pense que c'est le recul du gouvernement. Il s'est senti émasculé.
Oui.
Parce que Papa Legault a dit, ouais, ben, finalement, on va se calmer les nerfs un petit peu. Ton approche intransigeante, Christian, ça ne marche pas. On est en train de perdre l'opinion publique. On est en train de perdre plein de médecins. Donc, cette approche-là, elle n'a pas porté ses fruits. Puis là, ben, quand on écoute Christian Dubé dans ses entrevues, c'est comme s'il disait, il aurait dû m'écouter, ça aurait fonctionné.
Oui, mais non, ça n'aurait pas fonctionné.
Ben, c'est dur à croire. Il faut se rapporter, là, ben comment ça brassait.
D'ailleurs, on va voir Pascal Renaud tout à l'heure, justement, après la pause, président à Québec de la Fédération des médecins omnipraticiens. Puis, tu sais, l'approche Dubé ne fonctionnait pas du tout. Est-ce qu'on est mieux aujourd'hui? On va tout poser ces questions-là à Pascal Renaud. Est-ce qu'on est mieux avec l'approche Bélanger? Mais chose certaine, si on utilisait encore l'approche Dubé, ben les médecins seraient en grève. On n'aurait pas avancé pour 2 cents.
Écoute, on le saura jamais, mais moi, j'ai des sérieux doutes. Puis, tu sais, on parle de l'approche Bélanger, parce que Sonia Bélanger est maintenant ministre de la Santé. Mais avant toute cette espèce de crise mélodrame dans les médias à la fin de l'année 2025, il y avait un travail qui était fait de négociation par le Conseil du Trésor. C'était Sonia Lebel à l'époque. Et moi, ce qu'on me disait, c'est que les négociations, là, on était très, très proche d'un accord et que Christian Dubé est arrivé dans le processus. Puis il a mis le point sur la table et il a dit « il n'y en est pas question ». Donc, c'est vraiment un affrontement de deux visions. Celle de vouloir tout changer très rapidement, puis de casser en quelque sorte un moule, ou d'y aller pas à pas et d'essayer d'aller chercher des améliorations. Honnêtement, les deux approches, je les comprends, mais avec l'aventure qu'on vient de vivre avec les médecins, je me rends compte que c'est très difficile de casser les médecins sans casser une quantité astronomique d'œufs dans le processus pour faire ton omelette.
Fait que tu vois, c'est pour ça que je suis plus capable des vieux politiciens qui arrivent et me disent « Hey, mon approche est meilleure que celle-là. » Ben non, ton approche n'a pas fonctionné.
Puis là-dessus, là, sa tournée d'entrevue à Christian Dubé, moi, son cahier de proposition, fort bien.
Oui, je l'ai lu ce matin. Hein?
Bon, très bien.
Ça fait du sens.
Mais après ça, d'aller s'auto-justifier dans les médias, honnêtement, je trouve que c'est craché dans la soupe.
Oui.
OK? Puis la CAQ, c'est la formation politique quand même pour laquelle il a œuvré pendant plusieurs années. Il peut être fâché s'il veut. Mais là, tu nuis ouvertement. Tu rappelles un échec de ton gouvernement. Puis, tu sais, je me disais, c'est vrai, on a quasiment oublié ça. T'as mis un passe d'affaires dans une année en politique ces temps-ci. Mais c'est quoi l'utilité? Il n'y a personne... Je comprends que ça finit en queue de poisson pour lui. Il a peut-être envie de contrôler le message. Mais pour vrai, les gens étaient un peu passés à autre chose.
Mais l'utilité, c'est son petit égo.
Ben c'est ça, j'ai l'impression que c'est personnel. Une affaire d'égo.
Hey, mon petit égo personnel, là, il a été écorché. Fait que là, je vais vous le dire, comment moi, je suis bon puis je suis fin. Parce que dans c'est mon égo, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ah, je suis donc bien beau.
Je trouve que j'ai vécu une grande injustice.
J'avais donc bien les bonnes idées, moi.
Puis c'est dommage parce que Christian Dubé a été populaire très longtemps. C'était un des ténors de la CAQ. Et même quand il y avait des crises épouvantables, on dirait que ça y coulait sur le dos. Les Québécois continuaient d'être derrière lui. Il y a pas mal de monde qui ont voulu croire à sa réforme de la santé, même s'il y avait, il y a énormément de cynisme, évidemment, des Québécois par rapport à leur système de santé. Là, il ressort. Moi, je trouve qu'il aurait pu laisser tout ça passer puis peut-être faire le bilan un peu plus tard, après l'élection. Veut pas aujourd'hui, là, il monopolise l'espace public. Il y a Christine Fréchette qui est à la tête de la formation politique que lui a portée pendant des années avec ses collègues, qui essaie de remonter l'affaire, puis tout sort pour roter du vieux sur. Excusez-moi. Je trouve que c'est ordinaire, pas mal.
C'est très, 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 très ordinaire. Hey, sondage, actualité, palace. Bon, plusieurs choses découlent de ce sondage-là. On a une course à trois. Mais moi, c'est-tu quoi? Je suis pas sûr que ça qu'on a une course à trois, Antonine, parce que avec le vote francophone, puis là, Charles Milliard aura bien beau nous pondre son plan pour le français cet après-midi. Le PLQ est pas dans la course pantoute.
C'est ça. Quand on regarde les intentions de vote, ça mélange évidemment francophone, anglophone, allophone. On a l'impression que le Parti libéral est pas si mal positionné parce que, bon, le PQ est à 29 % le PLQ à 25 % Mais on sait que c'est le vote francophone qui fait la différence.
C'est ça.
Puis la zone payante pour les libéraux, c'est en haut de 24 % là. Les libéraux sont à 15 % dans le vote francophone.
Fait que ça va rester le Parti de l'île de Montréal.
Bien, si l'élection avait lieu la semaine prochaine, oui. Maintenant, on sait qu'il reste quand même 3 mois et demi jusqu'au scrutin. Il peut se passer beaucoup de choses. Et contrairement à 2022, où on savait que la CAQ allait gagner, là, il n'y avait comme aucun moyen que ça se passe autrement.
En effet.
Là, c'est très imprévisible. Et quand on regarde les résultats de ce sondage, il y en a beaucoup ces temps-ci des sondages, on en est conscient, mais ça a vraiment un impact dès que ça bouge d'un point. Parce qu'on regarde comté par comté, il y a des courses à 2, des courses à 3, des courses à 4 dans certains comtés. Ça, c'est extrêmement imprévisible. Il y a un peu des mauvaises nouvelles pour tout le monde dans ce sondage-là parce que, bon, le PQ est toujours au sommet des sondages, mais il y a le gouvernement majoritaire qui est en train de lui échapper. Ça peut encore évidemment changer. Et ce palace-là s'intéresse aussi à la question du TGV qui recueille un fort appui dans la population générale. Mais quand on regarde les électeurs péquistes précisément, c'est très divisé. Là. C'est du 45-45 pour, 45 contre. Donc, la sortie très, très forte à fond de train contre le TGV de PSPP, on se demande s'il n'y aurait pas dû, doser les choses un peu autrement, poser des questions, mettre des exigences plutôt que de dire qu'il tirait complètement la plug en cas de victoire. Pour la région de Québec, très intéressant, le Parti conservateur qui est premier, qui trône au sommet, plus 3 points, donc continue une croissance. La CAQ, plus 10 points dans
c'est
les sondages
fou.
Depuis le dernier sondage.
Mais quand j'ai
Ça marche,
hein? Souvent comme hypothèse que les Québécois votent avant tout pour un chef ou une chef.
Ben, ça prouve ça, là.
Ça prouve ça parce que tu es dans la capitale nationale, je vais refaire la même blague que j'ai faite la dernière fois. Là. Je regarde par la fenêtre puis je vois pas de changement depuis 8 ans. Là.
Ben, c'est ça. C'est ça, c'est le stationnement de chez Boulevard à Le Bourgneuf, là, peut-être.
Non, mais je regarde au loin, là, puis je vois pas de changement. Le centre Vidéotron existait déjà, puis t'sais, l'autoroute n'a pas changé.
Puis là, la CAQ est rendue à 26 % puis le PQ qui chute de 9 points. Donc, tu vois que c'est vraiment... Bon, les conservateurs gagnent quelques points aussi, puis les libéraux en perdent également, là, moins 5 dans la région. Donc, on est toujours dans le bleu dans la région de Québec, mais vraiment, là, c'est la CAQ et le Parti conservateur qui se font la guerre pour l'instant. Ça faisait longtemps que le PQ n'avait pas été populaire dans la région, il faut le dire, là, depuis les années 90.
Exactement, puis là, ça a tendance à rebaisser maintenant que ça s'est restabilisé pour la CAQ, parce que c'est le 9 % perdu au PQ, mais c'est le 10 % gagné à CAQ. Là.
Absolument. Donc, la CAQ, disons, les gens sont prêts à redonner une chance à une CAQ maintenant qu'on a changé de chef à sa tête. Donc ça, ça va être intéressant à suivre, mais ça peut, encore une fois, bouger. Parce que le Parti libéral est capable de performer aussi dans la région. Encore faut-il qu'il propose quelque chose. Un Parti libéral, peut-être avec un programme un peu plus à droite économiquement. On sait que c'est un terreau fertile à Québec pour certains conservatismes économiques.
Je regarde, puis c'est correct, là. T'sais, on va chercher des noms intéressants. Farnell, Morissette, Achereau, Gilly White dans Jean Talon, et là, c'est Alain Chandonnet dans La Pelleterie.
Ouais, mais le problème, c'est ce que tu disais. Le problème, pour l'instant, à mon avis, c'est le chef.
Oui. Et aussi.
Et là, l'enjeu, c'est que malheureusement, j'ai absolument rien contre lui, là, parce que, tu sais, on en parlait là, justement la semaine passée. Moi, j'ai aucune décision de prise au moment où on se parle.
Comme
moi
beaucoup de Québécois, d'ailleurs.
Je sais pas où me pitcher en ce moment, pas en tout. Puis je vais laisser la campagne aller. Puis, par contre, chose certaine, le leadership de Mme Fréchette shine beaucoup plus dans les dernières semaines que celui de M. Milliard. Ouais. Fait que même si tu as d'excellents candidats, ton point de tout à l'heure est excellent. On va regarder le chef en premier. Il y a une espèce d'effet pyramidal.
En effet.
On va regarder le chef en premier, puis après ça, on va s'intéresser aux députés qui sont sous le chef.
Parce qu'aussi, moi, ce que je vois là-dedans, dans ces trois candidats-là, c'est que tu as un progressiste en Farnell Morissette. La preuve, c'est que c'est Mika Horswell de Québec solidaire, Transition Québec, qui va être sa chef de campagne. Tu as une fille économique en Julie White, puis ce matin, c'est disponible sur le blvd.fm avec Alain Chandonnet. Tu as un anti-troisième lien. Fait que là, c'est quoi, le Parti libéral?
C'est quoi le fil conducteur?
C'est ça. Qui est le Parti libéral?
Mais on le sait pas. Moi, ça me fascine, les gars. Je sais pas si ce parti-là est de centre-droite, de centre ou de centre-gauche.
On n'a aucune idée.
Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'économie?
On ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec l'économie. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec la langue. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec l'identité. On ne sait même pas ce qu'ils veulent faire en gestion de
finances publiques. Pour l'identité, ça commence à être clair.
L'identité, rien.
Reculer.
C'est les deux langues officielles.
Mais
c'est
le gauche et la droite, l'économie, moi, je trouve ça... Pour un parti qui dit « moi, je suis le parti de l'économie », OK, mais quoi?
C'est notre premier parti, je pense, dans l'histoire du Québec, qui est Dolby Surround.
Oui.
Ça vient de partout, là.
Parce que Charles Milliard...
C'est une expérience qu'il nous propose.
Mais on reprochait ça à la CAQ.
Exactement. Raison, mais alors que là, je trouve la CAQ bien plus enlignée dans nous autres. On va défendre l'identité du Québec. On va défendre les valeurs identitaires. Bon, immigration, les seuils, etc. Mais il n'est pas question de séparation. Puis là, Christine Fréchette a dit, regardez comment ça marche, mon approche. Je viens d'aller chercher 10 milliards à Mark Carney. Me semble, la CAQ a été très girouette sur François Legault à gérer au sondage.
Tu trouves moins girouette un peu, là?
Ben, moi, je trouve.
Attends, là, il n'a pas commencé à annoncer des candidats. Parce que est-ce qu'il va y avoir un fil conducteur? On
en
va voir.
Ça.
Mais les libéraux à Québec, c'est problématique. Puis surtout, moi, je pense que Charles Milliard avait du potentiel de plaire à Québec. Premièrement, il connaît bien Québec.
Ben oui.
C'est un gars qui a été très présent dans les dernières années, parle avec beaucoup d'acteurs économiques quand il était à la FCCQ. Il y a un potentiel, mais. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de clarifier, là, c'est quoi le projet? On veut savoir c'est quoi le projet.
Exactement.
Les libéraux, des fois, j'ai l'impression qu'ils pensent que leur projet, c'est de gouverner, puis que ça leur est dû, puis ils n'ont pas d'efforts à faire pour nous convaincre. Ben non, désolé, ça marche plus de même. On n'est plus comme dans les années 90 où il y avait deux partis.
Ben, t'as raison. M. Chandonnet nous a dit ce matin, ouais, mais les libéraux, on est le parti politique qui a la plus longue histoire au Québec, mais encore.
C'est l'avenir qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Comment ça s'appelait le restaurant là, où on était servi dans le noir, là, comme si on voyait pas le sixième sens?
Oui.
C'est ça.
Oh,
je pense que c'est un peu ça que les libéraux. Ils veulent nous proposer une expérience.
C'est ça.
Antonine, Jeff, là,
fermez les yeux.
Oui, c'est une expérience. Fermez les yeux. Laissez vos autres sens là, aux aguets là, et vous verrez bien.
C'est tellement drôle parce que moi, j'ai essayé d'aller dans ce resto-là une fois.
Ouais.
J'ai fait une crise de panique après une minute, puis je suis ressortie de bord. C'est pas vrai que je vais ouvrir ma bouche puis me mettre des affaires que je vois pas dans ma bouche. Fait que ça arrivera pas que le Parti libéral non plus, comprends-tu?
Écoute, mais c'est ça. Ceux qui sont prêts, mettez les lunettes 3D, assoyez-vous et vivez l'expérience.
Hey, bonne question d'un auditeur pour terminer le caucus, Antonine. La région de Québec a régulièrement été au pouvoir. Les libéraux ont voté libéral, les libéraux étaient au pouvoir. Pif, centre Vidéotron. La CAQ est au pouvoir, on a une vague caquisse. Là, Si on vote PCQ, on va être dans l'opposition. Si on vote CAQ, on risque d'être dans l'opposition parce que présentement, on est plus dans un PQ majoritaire, minoritaire, parce que le PQ va faire une radio dans les régions.
Oui, mais...
On voit ça comment?
Ben, c'est vrai. Puis d'ailleurs, le fait de perdre la région de Québec pour le PQ, c'est ça qui fait que la majorité leur échapperait.
Exactement.
Là. Donc, c'est important. J'ai fait un saut quand tu as dit quand les libéraux étaient au pouvoir sans Vidéotron, parce que, je veux dire, moi, j'étais au PQ à l'époque et le parti a failli imploser à cause de ça. Et
t'as
du
raison.
Diantre que nous n'avons jamais eu de remerciements pour avoir tellement poussé pour ce mot, t'as dit.
C'est ce que j'ai vu
Vidéotron.
Dans ta face. T'as raison.
C'est un traumatisme
Pierre
chez moi.
Pierre Curzi. Louise Baudouin, M. P. deux autres, là, par cœur. Oui, c'est là que Jean-Martin Hossan est devenu...
Oui. Quelle époque!
Ben, c'est là que Jean-Martin Hossan, dans le fond, on a appris qui était Jean-Martin Hossan. D'ailleurs, au Bye Bye, il y avait un excellent sketch.
C'était un enfant qui le jouait, c'était très bon.
C'était malade.
Mais oui, effectivement...
Il a formé Option Nationale, ça a super bien vieilli, Option Nationale. Ça a bien été.
Écoute, c'est un beau projet. Ça a été une belle aventure pour bien des gens. Avec Sol, avec Evelyne Baudin, avec plein de gens, avec Catherine Dorion, etc. T'as raison, effectivement, puis l'auditeur a raison que...
J'avais oublié Catherine Dorion qui était option.
Ben oui, t'avais oublié. Comment oublier?
Comment oublier Catherine?
La mémoire est bien faite des fois.
La mémoire sélective. Oui. Effectivement, ça se pourrait que la région vote pour être dans l'opposition, mais moi, ce que je vois à Québec maintenant, c'est une région qui est assez morcelée, qui a beaucoup de couleurs, tu sais... pendant des années, c'était rouge et bleu. Maintenant, on a des députés de Québec solidaire. Moi, je pense qu'on va avoir l'entrée de députés du Parti conservateur, c'est sûr. Des comtés libéraux, des comtés péquistes. C'est extrêmement varié. La région de Québec, c'est pas du tout un bloc monolithique comme on peut voir, par exemple, à Montréal.
Je termine le caucus en disant que je vais me présenter au Parti libéral du Québec de cette façon-là, Charles Milliard. Bonjour, M. Milliard, je suis fédéraliste, mais j'aimerais qu'on taxe plus les riches. Je vais te dire, t'es fédéraliste, viens-t'en! C'est ça, le Parti libéral, c'est un parti fédéraliste.
Puis si moi, je fais la même chose, mais que je dis, je pense qu'on devrait baisser les taxes.
Il va dire, viens-t'en.
En marché, t'es fédéraliste.
Okay. En vrai, t'es fédéraliste.
C'est juste ça, finalement.
Il écoute pas la deuxième phrase.
T'es contre le référendum, that's it.
Oui, c'est ça. Embarque dans l'autobus du non
Quel
avec
beau
moi.
Projet.
Quel beau projet de société.
C'est pas un projet. C'est une expérience. C'est une expérience. Voyez-le comme ça.
Après la pause, Pascal Renaud, président pour la région de Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens. On revient sur cette sortie de Christian Dubé avec son document de 80 pages. Comment réformer le système de santé? C'est encore le temps de profiter des rabais de pièces d'auto économique parce que c'est jusqu'au 30 juin. Tout d'abord, profitez de 15% de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max. Économisez également 15% de rabais sur les amortisseurs complets McPherson ou Unity de première qualité. Et c'est pas tout. Fait beau dehors. J'ai lavé justement ma voiture la semaine dernière. Alors, profitez-en. C'est 15% de rabais sur l'ensemble de nos produits d'esthétique Silvermark. Pièces d'auto économiques, c'est le meilleur rapport qualité-prix de l'industrie. C'est aussi simple que ça. C'est une entreprise d'ici avec 5 centres de distribution pour les professionnels, 8 magasins pour les particuliers comme vous et moi, un site web transactionnel et une équipe de 200 employés à votre service. En plus, compte tenu qu'on a des semaines chargées, eh bien, le samedi de 8h à midi, autrement dit, le magasin au boulevard Charest-Ouest, au 1240 boulevard Charest-Ouest, est ouvert pour vous avec les meilleurs professionnels. N'attendez pas, ces promotions sont en vigueur jusqu'au 30 juin seulement. Pièces d'auto économique pour rouler en toute sécurité et économiser. Visitez piècesdautoéconomique.com.
On en jase.
On en jase, son émission d'actualité du midi disponible sur blvd.fm via notre web radio. C'est nos meilleurs moments qui s'y retrouvent. Également, il a une disponibilité serrée. C'est un médecin, c'est normal. Il est très occupé. On accueille en studio, on s'en va direct dans le vif du sujet, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens de Québec, Pascal Renaud. Pascal, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien. Merci beaucoup, Pascal, d'être présent aujourd'hui parce que grosse sortie de l'ex-ministre de la Santé, Christian Dubé. Il fait le tour des médias. Ça a commencé à Radio-Canada hier et voici ce qu'il avait à dire à propos des médecins généralistes.
On a l'impression que devant les généralistes, le gouvernement s'est encore couché.
Moi, ce que je vous dis, les Québécois ne sont pas bien servis. Ça, là, c'est pas acceptable. Et je continue de dire que c'est pas
réglé. On s'entend?
C'est pas réglé, ça.
C'est pour ça que vous êtes plus là.
C'est pour ça que je suis plus là.
C'est vrai ça, Pascal, qu'on n'est pas bien desservi en tant que Québécois par nos médecins omnipraticiens?
En fait, s'il y a une raison pourquoi on est moins bien desservi, c'est parce qu'il manque 2000 médecins de famille. Puis ça, il n'en parle pas du tout, l'ex-ministre.
Non, c'est pas dans son document. Hein?
Exactement. je l'ai lu son document ce matin pour me préparer. Puis ouais, effectivement, moi aussi. J'aurais aimé ça, lire ça. Parce que si on était 2000 médecins de plus, un, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler parce qu'il n'y aurait pas de problème. Tout le monde aurait son médecin de famille. Puis actuellement, ce qu'on a trouvé comme façon pour compenser ce manque-là, ben, il y a l'inscription collective qui en fait partie. Puis il y a quand même eu, avec cette entente-là, quoi qu'ils en disent, il y a eu une augmentation des services offerts à la population, là.
Ce trou-là, en termes de nombre de médecins, c'est dû au fait qu'on avait contingenté trop la médecine au niveau du gouvernement?
Exactement. Moi, quand j'ai fait mon cours de médecine, on prenait 400 étudiants par année pour faire leur cours de médecine. La CAQ a eu ça de bon quand même. Là, ils ont monté ça à près de 1200.
Okay.
Donc, il y a une augmentation des médecins qui vont sortir. Mais vous savez, quand on forme un médecin, on voit le résultat dans 7 à 11 ans.
Ben,
selon
c'est
la
ça, le temps, le temps de faire ton université, exactement. Le temps après ça de faire ta résidence, ainsi de suite. Oui. Là. Puis, ce qui est tout à fait normal parce qu'on s'entend, c'est un emploi qui a énormément de complexité.
Ben oui, il faut étudier aussi longtemps pour soigner les gens, on n'a pas le choix.
Dans son document que j'ai lu attentivement depuis ce matin, ils vendent beaucoup la création de Santé Québec. Je sais qu'avec toi, par le passé, tu avais été très positif envers l'arrivée de Santé Québec. Depuis l'arrivée de Santé Québec, tu as fait « Ouais, j'ai déchanté ». Là, tu en es où aujourd'hui, 16 juin?
J'ai encore déchanté là, parce que on pensait qu'il n'y aurait plus de politisation du système de santé. Puis ça n'a vraiment pas été le cas. Là, on l'a vu, puis on va le revoir dans les prochaines élections. On va encore faire les frais là, des promesses, de tout ça, quand on ne règle pas à la base le problème. Là.
Exactement. Il parle aussi dans ses points positifs du gap. Ça, j'ai tendance à lui donner. Puis du décloisonnement des professions. C'est-tu vrai que c'est deux points positifs?
Oui. Le gap a réussi à augmenter de l'accès, puis on l'a vu, nous, par les visites à l'urgence, parce que vous savez que ma majorité de ma pratique est à la salle d'urgence. On voit moins de cas qui avaient, entre guillemets, pas d'affaires à l'urgence, parce qu'il y a un accès possible par le gap. Puis la région de la Capitale-Nationale, bien, c'est une des régions les plus performantes de ce côté-là, où on a 200 000 rendez-vous offerts à des patients qui ne sont pas inscrits à un médecin de famille.
On a parlé beaucoup de la performance, évidemment, là, avec tout ce qui s'est passé avec M. Dubé aussi. Puis j'ai eu vent dernièrement d'un truc qui m'a fait un peu sourciller sur les performances de différentes équipes. Puis si on n'atteint pas les niveaux de performance maintenant, bien là, on va retrancher dans cette équipe-là. C'est-à-dire que les équipes qui sont les plus performantes vont pouvoir conserver le personnel en place. Mais les équipes qui sont moins performantes, parce qu'elles sont moins performantes, la réponse qu'on va leur dire avec ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, c'est bien, vu que vous n'êtes pas performant, on va couper. Mais comment on peut aider les équipes à être performantes si on coupe encore plus de personnel? Ça, cette partie-là, je ne la comprends pas.
En fait, là, ce que vous parlez, c'est du programme GMF.
Ouais.
Le programme GMF ne fait pas partie de notre entente. C'est des sommes qui sont
données... C'est autre chose.
Autre chose, okay. Qui sont données par le gouvernement aux cliniques en fonction de leur nombre de patients inscrits. Donc, c'est sûr que si une clinique a trois médecins qui partent à la retraite puis qui avaient chacun 1500 patients, bien, ils peuvent baisser leur niveau de GMF, mais ils vont s'occuper de moins de patients. Donc, le CIUS, dans le programme GMF, doit leur retirer certains autres professionnels.
OK.
Puis, effectivement, on aimerait ça qu'ils puissent rester dans ces équipes-là. C'est des professionnels qui sont intégrés, qui connaissent comment ça fonctionne. Par contre, le programme que le gouvernement offre les retire. On n'a pas notre mot à dire là-dessus.
Ça, vous n'avez aucune marge de manœuvre là-dessus. Non. OK. Ouais. C'est quand même... c'est ça.
Moi, c'est quand même spécial.
C'est juste que c'est drôlement réfléchi. Tu sais... Si on pense d'un point de vue ressources humaines, professionnelles, oui, mais tu sais, comme vous disiez, quelqu'un qui est déjà intégré dans une équipe, qui est déjà au courant, il y a une passation en plus parce que là, bon, il y a des médecins dans cet exemple-ci qui quittent vers la retraite. Il y aura donc de nouveaux médecins qui peuvent arriver. D'avoir des assises, une équipe sur laquelle tu peux compter parce qu'on est au courant déjà du fonctionnement à l'interne, il me semble que c'est logique de laisser ces ressources-là au même endroit.
Le problème, c'est que l'équation un médecin qui part, un médecin qui arrive
est pas bonne. Ah, c'est ça.
Si c'était le cas, il n'y en aurait pas de problème parce que le médecin qui arrive prendrait les patients de celui qui part à retraite puis c'était toujours comme ça. Mais vous avez encore vu cette année, j'imagine, là, avec quand les étudiants ont choisi leur choix de résidence, ben là, il y a une année record, là, 104 postes non comblés en médecine familiale au premier tour. Ce qui fait que des médecins qui vont venir remplacer ceux qui partent à retraite, mais on n'en a pas autant qu'on souhaiterait, puis autant que ce qui était prévu dans les prévisions du gouvernement. Puis pourquoi c'est comme ça? Bien, l'automne passé, où les médecins de famille étaient la principale cible du gouvernement, c'est clair que ça a découragé les étudiants au moment où ils devaient faire un choix pour leur pratique future.
Comment faites pour redorer justement le rôle, le titre de médecin de famille? Parce que j'ai l'impression que les jeunes étudiants sont plus attirés par les spécialités parce qu'il y a un certain glamour qui vient avec. « Hey, je suis un cardiologue. Hey, je nomme ça comme exemple par rapport à « je suis un médecin de famille ». Je me trompe-tu?
Non, tu te trompes pas. Puis le glamour, peut-être. Deux, la médecine familiale, c'est que c'est difficile aussi. Là. On traite des patients de 0 à 100 ans.
C'est
on
vrai.
Traite toutes les pathologies. On ne se réfugie pas dans un champ de pratique très précis.
Mm-hmm.
Donc, certains sont moins attirés par la médecine familiale pour ça. Il y a le côté de la rémunération. Il y a à peu près 40 % de différence entre un médecin spécialiste et un médecin de famille dans leur rémunération là, globalement. Donc, ça aussi, il y en a qui choisissent les autres spécialités par rapport à la spécialité de médecine familiale à cause de ça. Donc, nous, c'est sûr que quand on négocie avec le gouvernement, on leur dit, bien, écoutez, votre besoin, puis le besoin de la population, c'est d'avoir un médecin de famille. Bien, mettons les conditions gagnantes pour que ça fonctionne. Puis, dans les conditions gagnantes, bien, il y a le travail interprofessionnel. Les jeunes veulent travailler avec d'autres professionnels. Puis, ça a contaminé les plus vieux, je vous dirais, où les médecins sont contents maintenant de pratiquer en équipe dans des GMF, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, là. Mais cette ouverture de champ de pratique-là, qui était parlée là, par M. Dubé comme effet positif, bien, nous, on le vit sur le terrain. Historiquement, un patient hypertendu pouvait voir son médecin 4 fois par année pour contrôler la pression, tout ça, mais maintenant, il le voit 1 fois par année. L'infirmière clinicienne dans le GMF voit les 3 autres fois, ajuste les médicaments avec des ordonnances collectives là, qui sont faites. Puis le médecin peut voir un autre patient plus malade. Donc, il y a vraiment beaucoup de bien dans ce type de système-là où on collabore avec les autres médecins, avec les autres professionnels.
Est-ce que, là, c'est vraiment une question de néophyte, là, vous comprendrez, là, mais est-ce que, dans ce que vous dites, est-ce que c'est correct si je dis que ce que je comprends, c'est que vous êtes peut-être, en médecine familiale, ceux qui travaillaient le plus par rapport à votre rémunération en comparant avec certains spécialistes?
Bien, je ne peux pas comparer la charge de travail des autres spécialistes, là, je ne la vis pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les médecins de famille passent en moyenne entre 46 et 49 heures à s'occuper de leurs patients par semaine.
Puis là, il faut que tu ajoutes la paperasse après ça.
Il y a de la paperasse, mais il y en a une partie qui est inclue là, dans okay. ça. Donc, c'est pas tout supérieur. Puis ça, c'est une moyenne.
Mm-hmm.
Nous, en salle d'urgence, un temps plein à l'urgence n'est pas 40 heures. Et moins que ça, parce qu'on fait des jours, soirs, fin de semaine, on change de bord, tout ça.
Mm-hmm.
Donc, quand on regarde la moyenne des médecins en prise en charge, probablement que c'est un petit peu plus haut que la moyenne des médecins de famille en général.
Je termine l'entrevue. Je veux qu'on aborde certains points de vigilance ou points faibles, peut-être, du passage de Christian Dubé au ministère de la Santé. Moi, j'en vois un, les infrastructures. Les infrastructures ont dépéri complètement dans nos hôpitaux. Toi, Pascal, que les deux pieds sur le terrain, qui est deux mains dedans, c'est quoi que tu vois comme raté dans le passage de Christian Dubé, son 5 ans santé?
Bien, c'est définitivement le projet de loi 2 qui a pris sous baillon pour le faire adopter.
Ça a mis le feu.
En fait, toute la préparation à ça a mis le feu quand on l'a vu venir. Un, il passe sous baillon. Puis deux, ça l'a fait partir des médecins de famille prématurément à la retraite. Là. On a réussi à en convaincre quelques-uns de rester, mais quand un médecin a décidé de prendre sa retraite, c'est difficile de dire ben, « change tes plans un peu », puis nous, on a dit ben, « il y a des médecins qui arrivent au mois d'août, est-ce que c'est possible de retarder?
Ouais. »
On a réussi à convaincre quelques-uns de retarder leur retraite.
C'est combien dans la région de Québec qui sont partis?
À la retraite, j'ai pas le nombre exact.
Okay.
Mais il y avait, je vous avais parlé aussi des médecins qui voulaient aller dans d'autres provinces.
Oui.
Puis finalement, l'adoption de la loi a fait qu'il y en a juste 2 qui sont partis.
OK.
Donc, c'est moins que prévu. Mais c'est quand même 2 médecins de moins qui offrent des soins au Québec.
Mais on a réussi à sauver la mise parce qu'on a démontré une ouverture du côté du gouvernement, contrairement à la ligne dure de M. Dubé.
Exact. Le changement de version, vision de M. Legault a vraiment changé ça parce que c'était beaucoup plus. Mais je regarde mes collègues en Outaouais, eux en ont perdu beaucoup.
Oui.
Puis c'est ça, on n'a pas le nombre exact dans la capitale nationale, mais moi, j'en connais au moins un là, parce que mon médecin de famille a pris sa retraite et ça a fini par pencher dans la balance beaucoup. La question que j'ai envie de vous poser, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans les dernières années, avez-vous encore la flamme ou elle commence à diminuer un peu? Est-ce qu'il y a encore flamme ou on est sur la braise?
Bien, il y a encore une flamme. Est-ce qu'elle est aussi scintillante qu'elle était il y a 5 ans, il y a 10 ans? Probablement pas. Par contre, ce que j'espère, c'est que l'augmentation des cohortes va faire sortir plus d'étudiants qui choisiront la médecine familiale pour redonner un accès. Parce que quelque chose qu'on avait en commun avec le ministre Dubé, on veut aussi que toute la population ait un médecin de famille. Puis c'est clair qu'actuellement, quand on nous compare avec les autres provinces, le gouvernement, probablement pour satisfaire certains de ses besoins, oublie de dire que chez nous, 35 % de notre travail n'est pas fait en prise en charge en première ligne, est fait dans les hôpitaux, est fait en deuxième ligne, alors que dans les autres provinces, on est plus autour de 10-15 %. Donc, quand tu compares le nombre de médecins, on a l'air des fois d'être dans la moyenne ou parfois avantagé, mais dans les faits, ceux qui offrent le service que qui est le plus reconnu des médecins de famille, soit la prise en charge en première ligne, bien, on en a beaucoup moins qu'ils font.
Pascal Renaud, merci beaucoup pour ta présence en studio à Boulevard 101. Toujours un plaisir de te parler.
Ça me fait plaisir. À la prochaine.
Ouais, je te souhaite des belles vacances. Si jamais on se reparle pas d'ici là, ça va être des vacances très bien méritées après la
nuit
que vous avez
passée. Quoi? Prenez des vacances?
Les médecins en vacances!
Scandale!
Après la pause, on parle des médecins en vacances, de ce scandale au Québec. Non, c'est pas vrai. On parle avec Alicia Despins, chroniqueuse politique municipale. Plusieurs dossiers à parler. Premièrement, du bonhomme 7 heures du tramway, Stéphane Lachance, de la Ville de Québec, qui reçoit une belle mention concernant sa transparence au niveau de ses états financiers. Et c'est aujourd'hui à Québec que se tient les états généraux sur les infrastructures municipales. On parle de tout ça au retour de la pause à Boulevard 101. Météo, c'est très beau à l'heure actuelle sur Québec. C'est 22 degrés. C'est une belle chaleur d'été. Il y a de l'humidité. Attention cependant, car il y a 40 % de possibilité d'averse tard cet après-midi. Alors, ça pourrait venir, là, ça vient avec des risques d'orage également. Donc, soyez prudents pour le retour à la maison. Demain, on annonçait ensoleillé, mais oh, l'humidité va demeurer. Finalement, c'est 40 % de possibilité d'averse avec 25 degrés. De la pluie, 19 degrés pour jeudi. De la pluie, 16 degrés pour vendredi. Puis là, j'ai juste des nuages de pluie. Mais savez-vous quoi? Ça a le temps de changer. On commencera pas trop à s'en faire sur Québec. Quoique j'ai le sommet du gazon, fait que pourquoi pas. Hey, demain, Nate, je veux juste souligner que le show de Big Muff Unplug à la scène Le Bourgneuf, demain soir, 19h30, précédé d'un 5 à 7 avec la poutine Ashton gratuite et l'excellente chansonnière Rosemary McComo qui va être là pendant le 5 à 7. Ben, c'est complet. C'est sold out, mon chum.
C'est sold out, c'est fait,
yes,
c'est
sir,
réglé.
C'est fait pour le fonds philanthropique Catherine Guillet, projet qui va permettre à des femmes et des adolescentes de la basse ville de Québec qui sont dans une situation de défavorisation, qui n'ont pas de médecin de famille, d'avoir des soins complets de santé. Les soins vont être donnés par la clinique Ovel, propriétaire Caroline Drolet, une de mes amies. Et ça va être offert directement dans les locaux du Patro. L'agrandissement va s'inaugurer aux alentours du 1er novembre. Alors, je peux juste vous dire que ça va juste être des bonnes nouvelles qu'on va annoncer demain parce qu'on avait un objectif d'amasser 15 000 $ net. Puis les dons continuent à rentrer. Il y a de l'argent qui va continuer à se dépenser demain soir. Puis on a déjà dépassé notre objectif.
C'est parfait, ça. C'est beau d'entendre ça.
C'est ça.
Bravo. Good job.
Très, 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 très content. Grâce à vous, chers auditeurs, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont participé. Grâce à la Ville de Québec, bien, il y a des femmes et des adolescentes défavorisées qui vont être prises en charge au niveau de la santé. On vient justement d'en parler de la santé avec Pascal Renaud. Puis, ben, sur une touche personnelle, merci. Vous continuez à faire rayonner ma chum 4 qui est décédée il y a 2 ans. Elle continue à être vivante grâce à vous. Fait que merci beaucoup.
C'était sa volonté.
Exactement.
Donc, sa volonté. Ça fonctionne.
On va être répondu. Ben, hâte de voir sa mère demain qui a accepté pour la première fois de faire un speech à la scène.
Hey.
J'ai dit tant qu'à en faire ton premier, là, tu vas me faire ça à la scène quand la salle va être bien remplie. Puis, tu vas parler avec ton cœur. À m'envoyer son discours, je ne sais pas comment elle va faire pour passer au travail.
Ça va être émotif.
Salut Brigitte. Mais ça va être un beau moment. Puis après ça, hey, Big Muff en version acoustique.
Non, ça va être
magnifique. Si vous l'avez
ça.
Manqué sur blvd.fm, leur performance de vendredi dernier avec Audrey Pinchot, la ravissante Audrey Pinchot, la mère de famille.
Ouais.
D'autres invités spéciales également que vous connaissez à Boulevard. Puis, tiens, je vais en parler parce que c'est resté un de mes amis, mon chum Red. Je vais être là aussi demain soir pour venir encourager.
Ça va être. Puis, tu vois, c'est pour ça que la mère de Kat va passer à travers son discours haut la main. J'en suis persuadé, à cause du soutien de tous ces gens-là qui vont être devant elle dans la salle. Tu sais, des fois, de faire un discours devant des gens quand tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons, c'est différent qu'une situation comme celle de demain, là, où tous les gens devant elle vont être là pour la même cause.
C'est ça.
Au nom de sa fille aussi. C'est sûr que ça va être émotif. Mais ça va être un magnifique moment, puis ça va nous offrir une belle soirée avec une montagne russe d'émotions.
Ah, c'est clair. Puis la mère à quatre, en plus, qui a fait beaucoup de travail pour aller chercher du financement. Puis je te dis pas le montant, je te le dis ça à la scène demain soir. Hey. Fait qu'on va rajouter ça à la cagnotte qu'on a déjà.
Très fait cool.
Que, bref. Ouais, bref, c'est plaisant de savoir qu'on a un événement de financement, mais qu'à 24 heures avant l'événement de financement, tu sais déjà que tu vas faire plus de profit que tu voulais.
Ben ça, c'est fait. C'est ça, c'est réglé. C'est ça, cette partie-là, fait qu'il reste juste c'est le fun. Ça.
Ouais. Alors, merci à tous pour votre très, 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 très grande générosité. Puis merci d'embarquer dans ce projet de fou-là. Merci aussi à la gang... aux patrons de Boulevard qui ont contribué financièrement, qui me permettent d'en parler en nombre. Donc, ça fait vraiment toute la différence.
Tout à fait.
Yes, vraiment. En manchette, avant de parler avec Alicia, des pains de tramway, d'infrastructures puis d'état financier.
Bon, écoute, donc, manchette sur le tramway, je vais laisser ça de côté vu qu'on va en parler dans quelques instants. La Capitale-Nationale qui a enregistré la pire hausse des décès sur les routes au Québec, Jeff, en 2025, selon le bilan annuel de la SAAQ, le nombre de morts a bondi de 88,2% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Alors que la plupart des régions ont vu leur bilan s'améliorer, Québec et ses environs tirent les statistiques provinciales vers le haut. Tous les indicateurs sont en hausse. Les blessures graves ont augmenté de près de 16%, les blessures légères de 12%. Le nombre total de personnes impliquées dans des accidents a grimpé aussi de plus de 13%. Un ancien éducateur du centre d'accueil Mondiouville, Michel Leblanc, a été acquitté de 3 accusations de nature sexuelle liées à des événements qui seraient survenus entre 1979 et 1985. Dans sa décision, le juge a conclu que la poursuite n'avait pas réussi à démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le tribunal a notamment relevé certaines incohérences dans le témoignage de la plaignante, qui a reconnu pouvoir confondre ses présumés agresseurs. Arrêté en 2023, Michel Leblanc avait toujours été remis en liberté pendant les procédures. Je vais y aller avec... Ben, évidemment, le ministre délégué au développement économique régional, Éric Girard, aussi a annoncé un peu plus tôt qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections. Le député de Lac-Saint-Jean a indiqué sur le réseau X que cette décision a été prise récemment après réflexion avec sa famille. Nommé au Conseil des ministres de la première ministre Christine Fréchette en septembre dernier, Éric Girard affirme toutefois qu'il demeure en poste jusqu'à la fin de son mandat afin de poursuivre les dossiers en cours. Il y en a beaucoup, là, des manchettes. Je vais vraiment rapidement avec deux petites dernières. Okay? Le gouvernement du Québec qui va injecter 1 milliard de dollars supplémentaires sur 10 ans pour aider les municipalités à entretenir leur infrastructure d'eau potable et d'eau usée. Les ministres Éric Girard et Samuel Poulain affirment que cette somme représente une hausse de 65% des programmes existants. Donc ça, c'est somme toute une bonne nouvelle. Ça passe un peu sous le radar aussi, mais je ne sais pas si tu as vu ça passer. Il y a Ottawa qui a suspendu plusieurs certificats de citoyenneté canadienne par filiation récemment délivrés. Des personnes ayant obtenu leur citoyenneté à la suite des changements apportés au projet de loi C3 ont reçu une lettre d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada les informant que leur dossier est de nouveau à l'étude en cause des documents jugés potentiellement insuffisants ou provenant de sources non reconnues pour prouver leur admissibilité. Certains nouveaux citoyens qui avaient déjà entrepris des démarches pour s'installer au Canada, ils auront maintenant l'occasion de fournir des preuves supplémentaires avant qu'une décision finale soit rendue. Donc, il y a ça quand même, là. On va avoir la chance de fournir les différents documents, mais on ajoute un stress supplémentaire parce que là, c'est une décision d'Ottawa. Mais évidemment, il y a des gens de Québec, la capitale nationale, qui sont sans doute touchés par cette nouvelle décision-là aussi.
Vraiment. Hey, je reviens sur Éric Girard. C'est la circonscription de Grou qu'il représente depuis 8 ans avec la CAQ. Et là, si je regarde sur Québec 125, ça va être une lutte à 3 dans cette circonscription-là. Le PQ présentement est à 30%, la CAQ à 29%, les libéraux à 26%. Hey. Fait que ça va être le temps pour la CAQ. T'sais, on parle toujours de sortir des bonnes candidatures. Là. Ils ont une bonne chance dans cette circonscription-là. J'ai bien hâte de voir qui on va être capable de recruter du côté de la CAQ. Au sport, on l'a vécu hier en direct, Nate. Ce match nul entre Cap-Verde et l'Espagne. Hey, l'Espagne classée 2e au monde. Cap-Verde, un pays de 520 000 habitants. C'est match nul 0-0. Et hier, ça a été rempli de match nul et de surprises. L'Égypte, qui a fait match nul 1-1 avec la Belgique, qui est 9e au monde. L'Arabie Saoudite, qui a fait match nul 1-1 avec l'Uruguay, qui est dans le top 30. Et hier soir, la Nouvelle-Zélande, 85e au monde, a fait match nul 2-2 avec l'Iran. J'ai écouté la première demi. Honnêtement, j'avais jamais vu. J'ai pas vu encore depuis le début du tournoi. Puis là, c'est sûr que je vais voir mieux aujourd'hui. Mais d'équipe aussi rapide en contre-attaque que l'Iran. C'était fou.
Ah, c'était impressionnant,
la
ça.
La vitesse oui, oui. des attaquants, c'était complètement fou. Bon, l'Iran qui vit des difficultés, malheureusement, en sol d'Américain présentement. Ils sont obligés de retourner s'entraîner au Canada, revenir aux États-Unis. Ils ont de la paperasse à remplir de façon épouvantable. On a demandé l'aide de la FIFA hier, officiellement, du côté de l'entraîneur de l'Iran. Aujourd'hui, en Coupe du monde, France-Sénégal à 15h. Très intéressant comme match. La France, première mondiale. Le Sénégal est quand même 14e mondial. Donc, c'est pas chose faite pour la France. 16h, c'est l'Irak contre la Norvège. Et à 21h, c'est les champions défendants qui prennent le plancher, l'Argentine contre l'Algérie. L'Algérie, quand même, dans le top 30 mondial aussi. Donc, ça devrait être un excellent match. Sinon, ici, dans la région de Québec, mais les capitales de Québec qui accueillent les Valley Cats de Tri-City, sur Stade Canac ce soir. Et c'est comme ça pour les trois prochains soirs. On va de ce pas rejoindre Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale à Boulevard 102 et ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, je te fais écouter un extrait du bonhomme 7 heures du tramway. Stéphane Lachance.
C'est une possibilité, mais je veux dire, j'ai pas de rapport d'étude, d'impact ou de quoi que ce soit à vous soumettre pour vous le dire. C'est une possibilité, mais je veux dire, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Si les gens d'Infra-Québec ont leur droit de dire que ça va se faire, on va voir. Je sais que présentement, il y a des études de carottage qui se font. Alors, on verra le résultat de tout ça. C'est pas pour rien qu'on a accéléré les travaux pour intéresser les gens qui sont en co-développement. Donc, pour le reste, c'est une possibilité, mais je veux dire, j'ai pas d'études d'ingénieur pour soutenir ça, mais c'est une possibilité parce que c'est quand même le tunnel, c'est une situation qui est problématique au niveau du temps.
Tu peux être un militant dans la rue et avoir ta pancarte anti-tramway, mais là, quand t'es rendu chef de l'opposition à la Ville de Québec, Alicia, c'est moi qui est trop rigide? C'est moi qui est trop critique envers respect citoyen? Ou à un moment donné, quand tu fais des sorties publiques, faut que tu sois basé sur des études, faut que tu sois basé sur du concret. Tu peux pas juste envoyer en l'air « Ouais, ça va être dur de faire un tunnel ».
Ben c'est ça, il faut faire un minimum de rigueur, là. Puis on en a déjà parlé, je pense pas que t'es trop rigide, au contraire, là-dessus. Tu sais, le cynisme en politique, il est alimenté de tous les côtés, puis notamment par des gestes comme ça, des paroles comme ça. Je pense que les gens sont tannés. Quand les politiciens savent pas de quoi ils parlent, ça paraît, ça revient, puis là, ça alimente là, ces questions-là de cynisme, de confiance envers les élus, envers les organisations publiques, les gouvernements, puis ça, c'est jamais bon. Là. Fait que moi, je suis partisane d'appliquer, tu sais, le fameux « quand tu sais pas de quoi tu parles, tu parles pas
hein? ». En fait effet.
Je suis vraiment là, de ce côté-là. Mais on le voit, tu sais, ça s'effrite finalement du côté de Respect Citoyen. Là. Le projet du tramway va de l'avant. Là, on le voit, le financement, les travaux.
Les travaux. Des travaux qu'on ne le cachera pas, là, sont très dérangeants. Je me suis retrouvé dans le coin de Laurier la semaine passée parce que j'avais un événement justement caritatif à l'hôtel Plaza. Tabarouette, c'est le parcours du combattant.
Ça c'est impressionnant, les sens. Montagnes de fer.
Oui,
là,
c'est ça, exactement. Vraiment... Ça n'a aucun sens. Fait que les gens le vivent, les désagréments, que ce soit en Basse-Ville ou à Haute-Ville avec Laurier. Fait que là, on commence pas à remettre en question le tunnel. Là. On ne défera pas la passerelle Adrien Pouliot puis on ne scrapera pas Saint-Roch puis le fun.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, clairement, le projet va de l'avant. Puis tout à coup, on a vraiment l'impression que c'est l'entièreté du programme politique de Respect Citoyen puis de Stéphane Lachance qui s'effondre. Parce que si tout tient là-dessus, puis que là, tu l'as dit, bonhomme 7 heures, le bonhomme 7 heures n'a plus rien à dire là-dessus, on constate que là, il commence pratiquement à inventer des choses. Je ne sais pas combien de temps tu peux faire avec ça, honnêtement. Puis même là, on est le 16 juin, j'ai l'impression que il y a déjà des. Si j'avais eu à gager au début du mandat combien de temps tu pouvais faire avec ça, je ne me serais pas rendue au 16 juin. Fait que peut-être que c'est impressionnant en soi, mais là, l'été arrive, c'est peut-être le moment là, d'aller voir le monde, d'aller voir les citoyens dans tous les quartiers, pas juste les quartiers où ils sont élus. Puis d'aller jaser au monde, voir c'est quoi leur préoccupation du moment, tu sais, qu'est-ce qui les inquiète. À part le tramway, on peut-tu parler d'autre chose?
Alicia, c'est moi, je pense avoir fait ce constat-là il y a déjà un bon bout de temps. Là. Mais avec cette sortie-là, Est-ce qu'on est en mesure de dire, enfin, une bonne fois pour toutes, que M. Lachance n'était pas prêt? Il n'était pas prêt à faire le saut en politique municipale. Est-ce que ça aurait été une bonne chose, peut-être, qu'il trouve une autre porte d'entrée que la grande porte, peut-être, de l'Hôtel de Ville de Québec? Mais ça me donne l'impression que ce monsieur-là n'était pas prêt à faire le saut en politique. Tu viens d'en parler. Les fondements de sa représentation sont en train de s'effondrer parce que le projet du tramway va de l'avant. Là, on radote, on ressort des histoires qui tiennent à un fil ou à pratiquement rien du tout. Ce monsieur-là n'était pas prêt.
Pas prêt, puis pas. Tu sais, il y a des opportunités à saisir. Il y en a des gens. Y a-tu quelqu'un qui est prêt quand il arrive en politique? T'sais, pas. La plupart du temps, la réponse est non. Les gens sont pas prêts quand ils arrivent en politique. Tu apprends sur le tas, tu fais des erreurs, tu n'as pas le choix, ça vient avec ça. Mais là, 6 mois après l'élection, même un peu plus, tu es supposé avoir des bases assez solides, puis avoir démontré. Une croissance comme personnalité politique. Là, tu es supposé avoir fait tes armes, avoir surtout une bonne équipe. Moi, est-ce qu'il était prêt? Je pense que non. Mais je pense qu'il est surtout très mal entouré. Là. Il n'y a pas le personnel autour de lui pour lui permettre de rentrer un peu là, sur chemin qui est plus.
Il a pris les mêmes stratèges qu'Éric Duhaime pour les boissons énergisantes.
ça donne ce que ça donne. Puis. C'est dommage parce que j'y crois fondamentalement. On a besoin d'opposition.
Hey, on en a tellement besoin.
Puis là, ben, ce Stéphane Lachance ne joue pas très bien son rôle, ne joue pas bien du tout, là, finalement, son rôle d'opposition. Puis il y a de l'espace pour ça. Il y a une opportunité, non seulement politique, mais en termes de politique publique aussi, de faire avancer les affaires. Je pense que les médias, on aimerait ça avoir un espace médiatique plus diversifié avec des voix différentes puis des débats constructifs. Puis les citoyens aussi, là. Puis moi, je vous ramène à l'opposition d'avant, là, avec le dernier mandat de Régis Labeaume. Jean-François Gosselin, c'était la même configuration, il était 3. Puis Jean-François Gosselin, il était capable d'apprendre cet espace médiatique-là, de mettre des choses à l'agenda. Il n'était pas parfait, surtout loin de là. Il en faisait en masse des erreurs, mais au moins, il rassemblait davantage, puis il évitait de...
Ben, t'es avec Jean-François, avec Jean-François Gosselin, moi, je me souviens de propositions très concrètes qui parlaient aux gens. Une patinoire réfrigérée par arrondissement, transformer le site de la centrale de police en logement social et abordable. Tu sais, je t'en nomme deux comme ça, qui parlent beaucoup aux gens, puis aux gens des secteurs concernés, tu sais, qui sont sur des projets très concrets. Je trouvais quand même qu'ils faisaient un bon travail.
Oui, puis M. Gosselin, c'est un bel exemple, Alicia, je trouve, de ce que tu mentionnais tout à l'heure, d'aller à la rencontre des citoyens puis d'être à l'écoute. Bien des gens lui ont reproché finalement d'avoir changé de camp, sauf qu'à un moment donné, M. Gosselin s'est rendu compte que ce dont les citoyens ont besoin, c'est ça. La liste est là. Ouais. Et ça, je vais être capable de le mettre en place seulement si je fais le move.
Exactement.
Et il a pris la décision de le faire. Pas pour lui, tant que ça. Du moins, c'est l'impression que j'ai. Mais il l'a fait pour les citoyens. Claude Villeneuve était un monsieur aussi qui, au niveau de l'opposition, se présentait dans les médias puis venait quand même débattre des différents sujets. Est-ce que M. Lachance est trop entêté? Est-ce qu'il est trop tête dure? Parce que là, comme tu dis, après 6 mois, à un moment donné, tu vas te dire « OK, je vais prendre un pas de recul puis je vais essayer d'apprendre un peu c'est quoi la game à jouer. » Mais j'ai l'impression qu'on fait face aussi à un monsieur qui est tête de cochon.
Ben, c'est parce que d'autant plus, et puis là, tu me corrigeras, Alicia, si je me trompe, Bruno Marchand est à l'extérieur depuis 2 semaines. T'as toute la place médiatique. On l'a pas vu sortir. Bon, ça n'avait pas porté fruit parce que je pense qu'il y avait une trop grosse ressemblance entre Claude Villeneuve et Bruno Marchand dans leur façon de penser. Mais quand Bruno Marchand a fait une sortie comme ça de 2 semaines à l'extérieur l'an passé, à chaque jour, Claude Villeneuve faisait une sortie médiatique puis martelait un message. Les fameuses verrues urbaines là, qu'on voit dans le soleil depuis 2 jours, il avait fait une sortie publique là-dessus. Il avait fait une sortie publique sur le parc Jean-Paul Lalliété. Il avait... justement, parler de plein de projets diversifiés dans la ville de Québec pendant que Bruno Marchand était absent. Stéphane Lachance n'a pas fait ça du tout.
Puis on les préparait, on le savait quand Bruno Marchand partait. Fait que, avec Claude Villeneuve, puis l'équipe, puis l'attaché de presse, puis les conseillers politiques, on se réunissait, puis on était comme bon, mais. On a 2 semaines de fenêtre d'opportunité, de quoi on parle, on trouve des affaires, on planifie nos trucs, on essaie d'être diversifié, tu sais. Il y a des stratégies politiques qui sont de toute évidence pas utilisées en ce moment là, par l'opposition officielle à la Ville de Québec. Puis Je pense que c'est bien dommage pour eux, pour la ville, pour les citoyens.
C'est une question qui me brûle les lèvres, mais c'est vraiment au niveau de la stratégie politique. OK, Alicia, j'ai l'impression en ce moment que du côté de Bruno Marchand et de Québec Fort et Fier en général, on ne prend pas M. Lachance au sérieux. OK? Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait nous rattraper dans le détour? Parce que tellement. Si M. Lachance décide d'aller faire du porte-à-porte, s'il décide d'être à l'écoute, s'il décide de changer son fusil d'épaule, est-ce que ça peut être dangereux? Parce que quand tu ne regardes plus dans le rétroviseur, à un moment donné, tu perds de vue, puis là, finalement, ce qui était visible dans le rétroviseur devient dans l'angle mort. Puis est-ce que ça peut être dangereux éventuellement pour Québec Fort et Fier si M. Lachance remettait le train ses rails?
Bien, c'est ça, il y a comme deux affaires dans ce que tu dis. Il y a l'affaire du de l'opposition comme étant un peu une façon de faire pour que les gens qui sont au pouvoir ne soient pas trop confortables. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose. Tu le sens qu'il y a du monde qui check, qui viennent commenter ce que tu as à dire, qui cherche des failles, etc. Puis ça te pousse tout le temps vers le haut à faire mieux, à mieux communiquer, à être plus solide dans tes propos. Puis quand tu n'as pas ça, bien, ça se peut qu'on constate un relâchement de la part de Bruno Marchand ou de l'équipe. Là, si tu sais que tous les deux mardis au conseil de ville, tu ne te feras pas remettre en question, c'est pas sérieux ce qu'il va se dire là. Finalement, on perd le sens là, du débat, de la délibération publique. Après ça, est-ce que Stéphane Lachance pourrait du jour au lendemain là, se transformer, engager du monde puis écouter ce monde-là plus compétent, peut-être. Je commence à avoir de la misère à croire ça là, avec le temps qui file comme ça. Là, je pense qu'on aurait déjà constaté un certain changement. Moi, je pense que son problème principal, c'est qu'il est dans une chambre d'écho. Mmh. Il est juste entouré des gens qui disent la même chose que lui, qui pensent comme lui, qui ne se fait pas challenger à l'interne. Il ne fera pas ce pivot-là vers une politique un petit peu plus constructive, plus rigoureuse, là, qui lui permettrait peut-être de se représenter à la mairie en 2029 avec un minimum de chances.
Deux sujets en terminant, Alicia. Premièrement, états généraux sur les infrastructures. Ça se déroule présentement à Québec. C'est mené par le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulain. J'ai envie de dire un geste de dernière minute de la CAQ. Ça aurait dû faire là, 4, 5, 6, voire 7 ans.
Ouais. Après ça, moi, j'ai envie quand même de lancer des fleurs à Samuel Poulain.
En effet.
Parce que c'est un jeune ministre. C'est un vieux député, là. C'est pas son premier mandat. Lui, il s'est présenté à plusieurs reprises pour la CAQ. Puis là, il a enfin son ministère. Puis j'ai l'impression qu'il commence comme, j'ai l'impression qu'il trouve qu'il a sa place. Oui. À la tête de ce ministère-là. Là, évidemment, il y aura de toute évidence pas assez de temps là, pour faire sa marque. Mais je pense que juste ce geste-là, oui, du côté de la CAQ, dernière minute, mais pour ce qui est de Samuel Poulain, ça démontre sa proactivité là, puis le désir de faire avancer les choses. Après ça, ça reste que c'est un sommet pour réfléchir. C'est des états généraux. Puis l'UMQ a raison de le dire que c'est le fun, cet événement-là. Tant mieux si ça arrive rapidement après qu'on l'ait demandé. Mais on les connaît déjà, les problèmes, puis on connaît déjà les pistes de solutions. Tu sais, le Québec, en ce moment, les villes ont besoin de plus qu'un sommet. Là. Ils ont vraiment besoin d'actions concrètes. Puis ça, la CAQ n'aura pas le temps de livrer ça avant l'élection. Là.
Et en terminant, je prépare déjà les prochaines oppositions qui vont se présenter aux prochaines élections municipales dans à peu près 3 ans et demi. Ne faites pas la même erreur que Stéphane Lachance et Sam Hamad. Et ne dites pas « la Ville de Québec gère mal ses finances » parce qu'encore une fois, la Ville de Québec est première de classe selon l'Institut City House. C'est une note de A- pour ce qui est de la transparence de ses états financiers. C'est Caltech, Markham, Richmond, Saskatoon et Vancouver. Donc, le maire Marchand continue à bien suivre, et ça, je le répéterai jamais assez souvent, le cadre financier établi par Régis Labonte.
Oui, puis tu fais bien de le mentionner. Là. Je pense que ce fait-là de continuer le travail de Régis Labonte à cet égard-là, ça va être un des legs les plus importants de Marchand. Non, on n'en parlera pas au quotidien, mais tu sais, dans 20 ans, quand la dette va avoir continué de diminuer, ça va être parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir décidé de mettre en place des mesures, un cadre financier. puis que son successeur, surtout, puis je pense que c'est le plus important, va avoir choisi de respecter ça, puis il faut que ça se poursuive dans le temps. Puis tu dis « à moins », mais « à moins », là, c'est la meilleure note.
Ben, c'est ça, exactement.
Cette année, c'est excellent, là, c'est vraiment exceptionnel, là. Moi, j'ai des petites choses à noter là-dedans. Je veux notamment noter la présence de Maxime Elmaleh à Radio-Canada, là, qui commentait là-dessus, qui est le nouvel élu responsable des finances à la ville. Puis je pense que c'est vraiment une super idée d'y avoir donné cet espace-là, de donner l'espace là, aux élus du comité exécutif, là, surtout quand il y a des bonnes nouvelles. Puis en même temps, il dit lui-même, puis je trouve ça formidable qu'il soit... qui reste un peu critique, qui démontre que Québec a l'ambition de s'améliorer encore plus. Tu sais, Québec aimerait ça atteindre la note de A l'année prochaine. Moi, je trouve ça merveilleux. On ne s'assoit pas sur nos lauriers, on essaie de voir comment on peut améliorer la situation. Fait que c'est une bonne affaire. Tu sais, quand tu dis sur le long terme, là, tu peux avoir confiance qu'une ville est bien gérée ou du moins tu es capable de voir les éléments quand elle respecte son cadre financier, quand les documents sont clairs, quand les documents sont complets, sont livrés à temps puis qu'ils sont comparables. Donc, j'aurais donné A, mais moi, je connais pas ça.
Ça sera pour l'an prochain. Alicia Despailles, merci beaucoup. On se reparle prochainement.
Bonne journée, bye.
Salut, merci, bonne journée. Alicia Despailles, chroniqueuse en politique municipale pour nous à Boulevard 102.1. Courte pause. Nick, y a-tu un accouchement sur le pompier à la porte aujourd'hui?
Là, j'attends...
Tu confirmes?
Ben, j'attendais des détails par rapport à ça. Je n'en ai pas eu... attends un petit peu, je vais juste vérifier mes textos. Mais oui, paraîtrait que effectivement. Attends un petit peu. Oui, il y a une dame qui aurait accouché dans son auto. Je vais en savoir plus tantôt, mais là, j'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça. Mais ce que je comprends...
On vous informe encore qu'une très forte rumeur qui circule, comme on l'avait fait ce matin, qu'il y a une dame qui a accouché sur le pompier.
Il y a une dame qui a accouché sur le pompier à la porte. Ce que moi, c'est ma propre hypothèse. Ouais, mais tu sais, il y a eu des problématiques sur le pont Pierre-Laporte ce matin parce qu'il y a un véhicule lourd qui est en panne, si je ne me trompe pas. Ça a causé du trafic. Est-ce qu'on était en direction peut-être de l'hôpital à ce moment-là, mais finalement, on était pogné dans le bouchon, puis c'est pas tout à fait toi qui décides genre de situation-là. Mais écoute, j'attends encore des nouvelles par rapport à tout ça. Puis si jamais vous en avez, parce que je pense que notre collègue Yann avait reçu aussi un texto ce matin disant qu'effectivement, il y avait eu vent de cette histoire-là aussi. On ne confirme rien, je le répète, c'est bien important, mais on a eu vent de cette histoire-là qu'il y aurait une femme qui aurait accouché sur le pont Pierre-Laporte.
418-971-102, avez-vous des histoires d'accouchement bizarres? Moi, j'en ai une à vous conter au retour de la pause. Boulevard 101, l'émission L'en jase, votre émission du midi d'actualité. On vient de faire un grand tour d'actualité politique municipale. C'est conseil de ville ce soir également. On vérifiera. Et demain matin, 9h15, c'est le dépôt du rapport du vérificateur général de la Ville de Québec. Toujours intéressant parce que il y a toujours des petites perles qui sortent de là. C'est comme la vérificatrice générale quand elle sortait la pelle, la filière batterie. Mm-hmm. Il y a toujours quelque chose d'intéressant qui sort, donc bien hâte de voir. Notre ami Mathias, qui va être de retour en avion tantôt vers 6h, ben, je viens d'y écrire en disant « Hey man, désolé, c'est ton retour de voyage, mais 9h30 demain, t'es au huis clos, s'il vous plaît, réservez aux journalistes. »
Ben, ça va être un retour en force quand même. T'as-tu des prédictions? J'ai envie de t'entendre là-dessus, on dirait. Sur ce qui pourrait sortir comme petite pépite.
Le vérificateur général avait dit qu'il se penchait sur Capital Mobilité. Donc, j'ai hâte de voir. Okay. C'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. Puis là, à part de ça, je ne sais pas. Sûrement, moi, je pense qu'il va faire quand même un grand tour... de tout ce qui touche le transport en commun.
Passé dans la dernière année avec le RTC, la gestion...
Garage Newton, etc.
Garage Newton, fonds, les...
Ouais. J'ai bien hâte de voir. Bien hâte de voir. Mais bref, on va vous en parler évidemment demain midi à l'émission d'En Jase.
Tu penses-tu que c'est trop tôt? On pourrait entendre parler du déneigement.
Déneigement!
Peut-être des pistes cyclables, entre autres. Certainement. Là, on a décidé d'aller de l'avant all-in pas mal quand même. Là, j'ai hâte de voir ça aussi. qu'est-ce que ça représente.
Certainement. Donc, le chum Mathias va être là demain matin, puis on va vous en parler à l'émission On en jase avec un immense bonheur. Évidemment, c'est le retour de Gravel qui suit. Vous le savez, je vous le répète, les bonnes façons de nous écouter, blvd.fm, c'est notre web radio, l'application BLVD 102.1, gratuite sur Google Play et Apple Store. Et également, vous dites, écoutez, BLVD 101, votre haut-parleur intelligent, et on apparaît dans vos oreilles. Nate, ça t'es-tu déjà arrivé de te faire raconter un accouchement inusité ou de vivre un accouchement inusité comme on aurait vécu sur le pompier à la porte aujourd'hui?
Moi, non. À moi, personnellement, non. Ouais. Les deux accouchements de ma copine se sont bien déroulés en milieu hospitalier et tout. C'est sûr que nous autres, on habite à deux pas de...
De Saint-François-d'Assise.
De l'hôpital, d'un bord comme de l'autre. Là, que c'est bien mal pris, même l'enfant Jésus n'est pas loin. On a la chance d'habiter dans Limoilou. J'ai déjà eu certains amis à moi qui venaient nouvellement d'être papa. Puis à un moment donné, on prend une petite bière autour d'un feu. Puis le chumé en question me dit, mon banc de char est scrap. Parce que, tu sais, ma blonde s'est pas rendue à l'hôpital, puis elle a perdu les os dans l'auto.
Dans l'auto.
C'était pas des bancs en cuir, malheureusement. Ça, mais quelque chose d'aussi scénario de film qu'on est obligé de s'arrêter sur le pont dans l'auto, on s'installe en arrière. Ça, non. J'ai jamais vécu ça, moi.
Moi, j'ai un de mes chums qui a accouché sa blonde dans sa salle de bain.
Et beau boy.
Ouais, mon chum Marc-André. Dans le fond, sa blonde était... elle s'est levée le matin et elle s'est dit, « Crime, je pense que j'ai des brûlements d'estomac. » Mais hier, je suis allé avec ma cousine puis ma mère manger au Vietnamien. Fait que je pense à la sauce thaï, tout le kit. Puis là, elle était censée aller avec sa plus vieille en sortie aux pommes avec la garderie.
OK.
Mais finalement, elle va porter la plus vieille à la garderie puis elle dit... Ouais, non, je file pas trop. Fait qu'elle parle aux éducatrices, elle dit excusez-moi, je t'accompagnerai pas aux pommes finalement. Je vais revenir à la maison.
OK.
Là, elle revient à la maison, les douleurs, les contractions. Elle appelle sa cousine, justement, qui est infirmière au département de natalité. Sa cousine dit ben écoute, moi, je suis tatoué. J'appellerai ten chum, puis je dirais hey, viens-t'en à l'hôpital, tu sais, on va te vérifier toute la kit. Finalement, douleur persistante. Puis là, elle dit la seule place où j'étais bien, c'est quand je m'assoyais sur le bol de toilette.
Okay.
Parce que tu es comme dans une position confortable, pas trop penché, pas trop rien. Et là, elle appelle mon ami pour lui dire « Hey, t'en viendrais-tu? » Fait qu'il dit « Oui, laisse-moi finir de quoi à job, puis je m'en viens, puis on ira à l'hôpital. » Elle dit « Parfait, presse-toi pas trop.
» Presse-toi pas trop, tout est beau, buddy.
Tout est beau.
Pas de stress avec ça.
Mais finalement, quand mon ami arrive à la maison, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, là,
arrête.
Crie son nom dans la maison.
Arrête.
Puis là, hein, t'es où? Viens t'en, on va aller à l'hôpital. Puis là, elle dit, hey, je peux pas bouger d'ici. Fait que là, il monte à la salle de bain en haut. Puis là, sa blonde est là. Puis elle dit, c'est la seule place, je suis bien. Je suis pas capable de bouger. Fait que là, il dit, voyons. Deux, trois petits sacs. Puis il se penche. Puis il voyait la tête du bébé.
Arrête donc.
Ouais.
Arrête donc.
Oh, ouais. Fait que là, il dit, calé, c'est en train d'accoucher.
C'est. D'après moi, c'est le verbatim exact.
Ah oui, c'est carrément le même qui nous l'a expliqué. Écoute, il nous a expliqué ça une semaine après dans une chambre de décoquet avec une bière. On voulait mourir de rire.
Ben voyons donc.
Ouais. Et calé, c'est en train de coucher, on fait quoi? T'sais? Fait que là, il dit, ben call le 911. Fait qu'il a appelé le 911.
Puis là, pis, il y a eu l'assistance au téléphone.
Exactement. Okay. Fait que, tu sais, là, imagine-toi, là, t'as ton cellulaire de même, là, t'es dans le creux de l'oreille. Puis là, tu dis au 9-1, « OK, 9-1, je fais quoi, ma blonde? Je vois la tête, le bébé est en train de sortir. » Et là, le 9-1-1 l'a assisté pour accoucher sa propre fille. Alors, il a installé, il a couché sa blonde à terre dans la salle de bain. Il a mis une serviette pour pas qu'elle aille trop frette. Il a mis une serviette, évidemment, où le bébé sort.
Ben oui,
là, j'ai
ben
pas
oui.
besoin trop de vous faire
ben
oui. de démonstration. Parce que, bon, évidemment, il y a eu du sang puis il y a eu plein d'affaires. Là, t'sais.
Ben non, mais c'est sûr.
C'est ça. Il est tiré les mains puis il dit « Viens-t'en, bébé, papa t'accueille. »
My God!
Trois, quatre petites poussées, schlick, la petite fille était sortie, il a accouché. Mais sa propre fille.
C'était-tu son premier enfant?
C'était le deuxième.
C'était le deuxième.
Fait que là, au moins, il avait déjà vécu un accouchement.
Mais quand ouais, mais même... en même temps, au premier, tu le vis, mais comme père aussi, t'es pas toute là, dans oui. le sens où est-ce que tu essaies de faire de ton mieux puis d'aider ta blonde le plus possible, puis les points de pression. Ouais. Le... Mais en même temps, je sais pas comment vous autres, vous avez vécu ça, les gars, mais premier accouchement, t'es un peu démuni. T'as même beau avoir fait des cours prénataux puis tout ça, mais là, t'es comme...
Le premier accouchement, en plus, moi, ma blonde, le cœur d'Eliott a décéléré. Fait qu'ils sont genre 10 à être rentrés dans la chambre d'hôpital puis à dire « OK, on s'en va césarienne d'urgence. »
Puis ils s'occupent pas de toi pendant ce temps-là. Le père, c'est correct aussi.
C'est correct,
là,
mais c'est le père correct, devient là. Un objet. Là, ben oui. Moi, je me souviens, je t'assure. Puis là, j'ai bien beau parler à ma blonde. Tout ce qu'elle me dit, c'est « J'ai mal, femme ta gueule. »
Ouais.
Je les comprends. Ils veulent pas qu'on leur dise « Ça va bien aller. Ben » oui, ils souffrent à le martyr. Ben oui. Là. Bon. Et là... Je me souviens, je suis assis là dans la chaise versante, puis je regarde, puis là, son 10 à rentrer, je chlique, puis là, moi, j'étais en arrière, puis je fais, ouais, je fais quoi, moi? Ah, suivez-nous, telle salle, papa, que là, il me donne une jaquette, habillez-vous. Mais là, t'es dans le corridor pendant à peu près 10 minutes, puis t'attends. Mais moi, ça m'avait paru 3 heures de temps. Puis, finalement, la médecin a réussi à faire un move qui a fait en sorte que Eliott, qui avait la tête coincée, s'est décoincé. Puis, Cynthia a pu accoucher naturellement. Mais ces 10 minutes-là que j'ai attendu, j'étais tellement nerveux, je me grattais la tête, j'ai troué le petit casse.
Ah non!
J'avais un trou sur le dessus du petit casse.
Arrête donc! C'est ça. Mais je te comprends tellement, c'est ça. On est en,
mais
t'es
complètement inutile, là. T'es là, puis qu'est-ce
ben non,
que tu
mais
veux
c'est
faire?
Ça. Tu fais ce que tu peux, puis c'est ça. Ce que t'as appris dans les cours prénataux, si t'as suivi des cours prénataux, puis dans
plein
les...
Puis... Hey, puis ça me fait penser à une autre histoire de cet accouchement-là, justement. Fait que mon chum, finalement, tout s'est bien passé. Là. Les ambulanciers sont arrivés, tout le kit. Puis ça a super bien été. Mais moi, quand Cynthia a accouché de premier enfant, Eliott, il fallait qu'elle aille en néonatalité parce qu'il faisait moins de 5 livres. Et ça donne que là, l'accouchement se passe, le stress, la césarienne d'urgence qui n'a pas eu lieu, tout le kit. L'accouchement s'est fait à 3 heures du matin. Moi, je suis levé depuis 5 heures parce que je suis allé travailler dans le matin, brûler les têtes, puis j'arrive en néonatalité. Et j'entends, ouais, ça va être moi qui va s'occuper d'Eliott. Mais l'infirmière qui s'occupe d'Eliott, c'est mon ex. C'est Mel.
Voyons
donc. On s'était laissé en bon terme, fait que tu allais bien. Okay. Et là, moi, j'ai trouvé ça fun parce que là, elle m'expliquait tout ce qu'elle allait faire avec Eliott.
Ben oui.
Tout ça. Mais là, je reviens voir Cynthia parce que compte tenu qu'elle était passée par la salle de césarienne, il fallait qu'elle passe par une autre salle avant de pouvoir venir voir Eliott en néonatologie. Et pendant 15 minutes, j'ai juste eu le fou rire en disant, hostie. Attends, je raconte ça à mes chums. Ils croiront pas à ça. Puis là, elle est là. Ouais, qu'est-ce que tu vas raconter à tes chums? Je suis comme, ils croiront pas à ça. Ils vont dire, c'est malade. Fait que là, vous savez, je finis par lui dire que c'est Mel qui s'occupe d'Eliott. Fait que là, ton ex, il s'était jamais rencontré. Alors, moment invraisemblable, Mel prend Eliott dans ses bras, le donne à Cine.
Ouais.
Et là, Cine et Eliott dans les bras. Mais les deux se mettent à jaser. Ouais, il fait ça encore ça. T'es mon nom, c'est G. Ouais, G fait ça encore. Ah, parle-moi dans la boîte. Si tu t'en aimes.
Il fait encore telle affaire. Ouais. Elle est toujours bien pas demandée pour être marraine.
Non. Mais les deux se mettent à bâcher sous moi.
OK, sur le père.
Pendant que toute l'attention devrait être sur Eliott.
Sur le bébé. Ben, tu
comprends? Fait que là, à un moment donné, je dis, à l'ordre, les femmes. On a un bébé à s'occuper.
Quand on dit qu'un accouchement peut être difficile pour les hommes aussi.
Ben,
regarde,
et voilà,
tu vois. C'est un bon exemple.
Mon ami Marc-André a accouché sa blonde, puis moi, j'ai vécu le calvaire
du
de
bully.
Mon ex qui jase avec la mère de mon enfant, bouillé.
Tu t'es
les
fait bully.
Les hommes,
ouais.
C'est tough, les
t'es fait bully. Là, d'ailleurs, on se fait reprendre là aussi par texto, juste pour l'information générale. Personne d'autre que la femme accouche. Ce n'est pas le médecin, le conjoint ou l'infirmière qui accouche le bébé. Il assiste éventuellement, mais c'est la maman qui accouche, effectivement.
C'est un excellent point.
À proprement dit, ce sont les mamans qui accouchent. Tu sais, tu vois, j'ai relancé là, par texto, puis j'ai pas d'autres détails pour l'instant, là. Par rapport à ça, peut-être que vous étiez là dans le secteur ce matin aussi. Peut-être que vous êtes posé la question, bon, qu'est-ce qui se passe avec ce véhicule-là? Mais c'est ça. Paraîtrait que pour les auditeurs qui viendraient de se joindre à nous, paraîtrait que dans le bouchon de circulation qui a été causé principalement par un camion lourd, là, véhicule lourd ce matin sur le pont Pierre-Laporte, il y aurait une femme qui aurait accouché de son bébé, ou du moins était en train d'accoucher. Est-ce que finalement... le bébé est vraiment né là, on ne le sait pas. Il n'y a rien qui nous permet de confirmer cette information-là pour l'instant, mais on a eu vent de ça. Puis certains de nos contacts et de nos amis dans différents domaines nous ont confirmé qu'effectivement, il y aurait eu début d'accouchement, du moins, sur le pont Pierre-Laporte.
Et voilà. Le retour de Gravel va vous tenir informé de tout ça. Très, très, très courte pause. On revient en vous parlant des matchs de la Coupe du Monde.
Juste. Vous avez transporté du matériel. Ah ben. Longue journée sur les chantiers.
Verte et en santé tout l'été.
On en jase. Jusqu'à 14 heures. On en jase.
On termine cette émission avec deux petites mentions de sport. Premièrement, John Tortorella qui ne reviendra pas à la barre des Golden Knights de Vegas. Donc, les finalistes de la Coupe Stanley se cherchent un nouvel entraîneur. Également, plus de hockey sur CBC en anglais, comme on le fait avec Radio-Canada.
Ça, c'est gros, ça.
Oui, il y a de ça quelques années. C'est la même chose. Ça fait 74 ans que le hockey du samedi soir sur CBC. On a peut-être le temps pour en parler justement de l'arrivée de ces nouvelles plateformes-là demain qui changent complètement le portrait pour ce qui est du sport professionnel. Le retour de Gravel suit à l'instant même avec Denis Véraud et c'est le retour d'Audrey Pinchot. Vous aurez des bonnes blagues comme celle qu'on vient d'avoir par texto. François qui nous écrit « Si le bébé est né sur le pont, j'espère que son deuxième prénom sera Pierre. » Nathan Meilleur, merci d'avoir été avec moi pour la dernière semaine et ces deux jours cette semaine.
Un grand plaisir. À une prochaine fois.
Oh yes! On fait ça bientôt. Salut,
ciao.
Guys.